Lettre de George Whitehead, une salutation évangélique dans le véritable amour chrétien, recommandée aux amis qui croient au nom du Fils de Dieu, la vraie lumière, et à tous ceux qui désirent sincèrement être affermis et établis dans la foi de Christ. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des fils de lumière. Jean 12, 36, dernière lettre connue de Whitehead, écrite dans sa 86e année. Bien-aimés amis, maintenant dans mes années avancées, après un long cheminement et de nombreuses années de labeur dans l'œuvre du ministère de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, il a déposé sur moi une salutation renouvelée de véritable et tendre amour, et a porté mon esprit à vous la recommander par voie d'épître, car depuis quelque temps je suis diminué quant à l'homme extérieur, et ne puis voyager au loin comme autrefois. Pourtant, intérieurement, je suis souvent fortifié et renouvelé en esprit par l'amour, les tendres miséricordes et les richesses de la grâce du Seigneur notre Dieu, que j'ai en son Fils bien-aimé, le Christ Jésus, à qui soit louange, honneur et gloire à jamais. Mes chers et bien-aimés amis, je demeure aussi profondément préoccupé en esprit pour toute la famille, l'héritage et l'Église Dieu que jamais, et pour tous ceux dont le cœur est véritablement incliné par sa grâce divine et son bon esprit à le chercher et à le connaître, afin qu'ils aient la vie éternelle par la connaissance du seul vrai Dieu, et de Jésus-Christ qu'il a envoyé. Car c'est là la vie éternelle, l'intention, la substance et la gloire de toute vraie religion chrétienne. Et que cette connaissance augmente, et que sa gloire se répande sur la terre, voilà encore le désir et le souffle de mon âme vers le Seigneur notre Dieu. Et très cher bien-aimé, afin que dans cette vie éternelle, la connaissance divine et spirituelle du seul vrai Dieu et de son Fils Jésus-Christ, vous croissiez tous, et que vos âmes y prospèrent pour la gloire éternelle de Dieu. Votre paix éternelle est le désir sincère et la supplication de mon âme à celui qui est le Père et la source de toutes les miséricordes et bénédictions qui nous sont accordées en et par son Fils unique Jésus-Christ. Oh, considérez et méditez diligemment et souvenez-vous de la grande sagesse et de l'amour de notre Dieu très gracieux, comme cause de ce qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, lui qui dit à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, s'il en eût été autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Assurément, nous qui croyons en Dieu, qui a donné son Fils bien-aimé pour notre rédemption et notre salut, nous devons aussi croire en son Fils comme notre grand médiateur et avocat auprès du Père. Considérant aussi que le fait que Christ Jésus nous ait été donné comme médiateur entre Dieu et les hommes, et qu'il se soit donné lui-même en rançon pour tous les hommes, comme témoignage en son temps, et qu'il soit mort pour tous les hommes, goûtant la mort pour chacun, tout cela procédait du grand amour de Dieu, et non pour satisfaire d'une manière stricte. Assurément, cette justice et cette patience de Dieu, déclarée par le sacrifice propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la rémission ou le pardon des péchés passés, sur une vraie repentance, ne peuvent à bon droit être tenues pour vengeance ou justice vindicative, comme certains l'ont affirmé contre nous. Mais c'est un acte gratuit de l'amour et de la sagesse de Dieu de donner son Fils, et en lui de réconcilier le monde avec lui-même et de ne pas leur imputer leurs péchés passés, lorsqu'ils sont pleinement réconciliés et unis de. Or, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. En quel sens Jésus-Christ, en tant qu'agneau de Dieu, ôte-t-il le péché du monde? Je réponds en deux sens. Premièrement, comme une offrande universelle et très excellente, et un sacrifice acceptable pour le péché, afin d'obtenir la rédemption et le pardon par son précieux sang, et même comme un parfum d'agréable odeur pour Dieu, surpassant de beaucoup les oblations légales et typiques d'animaux, telles que les offrandes et le sang de taureau, bouc, génisse, brebis, bélier, agneau, etc. auquel Jésus-Christ a mis fin par son unique offrande. Deuxièmement, Jésus-Christ, en tant qu'agneau de Dieu, ôte le péché du monde en purifiant la conscience et en purifiant les cœurs de tous ceux qui le reçoivent véritablement et croient en lui, oui, en son saint nom et sa puissance divine. Ôte donc, voici l'agneau de Dieu, qui ôte et met fin au péché, achève la transgression et introduit une justice éternelle. Portons tous nos regards vers le Messie promis, oui vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, afin que nous croyions tous de cœur pour la justice et le salut de nos âmes, de sorte que nous soyons participants de Christ et de sa justice, afin que nul ne se retire pour la perdition, ni ne retombe dans les souillures du monde, lui qui s'en est échappé par la connaissance de Dieu et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est capable et véritablement disposé à sauver parfaitement tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Celui qui s'est offert lui-même à Dieu, agneau sans tache pour toute l'humanité, et qui est ainsi devenu propitiation pour les péchés du monde entier, n'a jamais eu l'intention de laisser les hommes dans le péché et la transgression tous leurs jours, mais d'accorder à tous les hommes la grâce pour les conduire à une vraie repentance, afin qu'ils puissent recevoir cette rémission, un retrait, le pardon, l'expiation et la réconciliation obtenue pour eux. Que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs péchés, mais leur accordant et leur octroyant la rémission sur une vraie repentance, était et est un témoignage et une indication manifeste du grand amour, de la grâce et de la faveur de Dieu envers le monde, en et par son Fils bien-aimé. Avec quelle merveille Dieu, dans sa grande sagesse, son amour, sa bonté, sa douceur, sa longanimité et sa compassion, s'est-il abaissé à nos faibles capacités et aux conditions de la race humaine, pour notre rédemption et notre salut, par son Fils bien-aimé Jésus-Christ, véritablement considéré, tant dans sa venue et ses souffrances dans la chair que dans sa révélation en esprit. Oh, que la considération grave de toutes ces choses affecte profondément tous nos cœurs et nos âmes, pour aimer, servir, craindre, adorer et louer sincèrement le Seigneur notre Dieu très gracieux, par Jésus-Christ à jamais. Il convient d'observer et de se souvenir sérieusement que, lorsque Jésus-Christ allait prendre congé de ses disciples, il les recommanda à l'Esprit de vérité, le Consolateur, qui devait rendre témoignage de lui et demeurer avec eux pour toujours, et qu'il se manifesterait, se montrerait à celui qu'il aimait, et que dans peu de temps, ses disciples le verraient, c'est-à-dire le Christ Jésus, ainsi bien qu'il s'en alla quant au corps, il viendrait de nouveau à eux en esprit. Maintenant, chers amis, puisque c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ et nous montre ce qu'il prend de Christ, il, le Saint-Esprit, prendra de ce qui est à moi, dit Christ, et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit prend et nous montre les qualités les plus excellentes de notre grand et glorieux médiateur, son grand amour universel, sa douceur, son humilité et sa compassion, afin que nous en participions peu à peu, à mesure que nous lui obéissons véritablement et le suivons dans la manifestation de ce même Saint-Esprit, par lequel le mystère de Christ est révélé, en est pour les croyants véritablement spirituels dans sa lumière, par laquelle ils deviennent enfants de la lumière. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a, par ses souffrances, son unique offrande, son sacrifice et sa mort, mis fin à toutes les offrandes légales, type, ombre et figure, aux ordonnances extérieures, rites et cérémonies, et aux nombreuses ablutions au baptême, sous la loi de Moïse et le sacerdoce lévitique, il demeure prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizédek, roi de justice, roi de paix, notre souverain sacrificateur sur la maison et la famille de Dieu, lui qui a consacré, préparé, ouvert la voie nouvelle et vivante de la nouvelle. Considérons donc quel grand amour Dieu, dans sa sagesse divine, a manifesté par son Fils bien-aimé pour nous et envers nous, oui, envers les enfants des hommes, afin que nous ayons et connaissions l'accès à son alliance éternelle de grâce, de miséricorde et de paix, en et par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Estimons à jamais son grand amour et sa bonté, en nous ayant introduits dans une dispensation plus glorieuse que toutes les dispensations précédentes de la loi et des ombres, sous lesquelles la lumière était tellement voilée que le peuple d'Israël, lorsque le voile était sur son cœur, ne pouvait voir la fin de ses ombres et de ses voiles abolis par Christ. Mais ces voiles ont maintenant disparu et se sont enfuis par le soleil de justice, plus glorieusement manifesté et brillant davantage, comme la nouvelle alliance et la dispensation spirituelle. L'âge de Moïse est dévoilé en ce jour, bien que Dieu ait voulu accorder sa parole, sa lumière et son esprit pour visiter les enfants des hommes, dans toutes les générations depuis le commencement, et même au temps de la loi et des prophètes, la voix, la parole et l'esprit de Dieu, comme l'ont attesté Moïse, les saints prophètes et les serviteurs de Dieu, étaient donnés et le peuple averti et exhorté à y obéir pour le salut et la paix. Mais au jour de Christ et de l'Évangile, cela plus clairement manifesté et brille plus vivement. Abraham a vu le jour de Christ et s'en est réjoui. Et l'Esprit de Christ dans les saints prophètes a rendu témoignage d'avance, tant de ses souffrances que de la gloire de son jour, qui devait suivre. Maintenant, chers amis, le jour de l'Évangile, le jour de Christ et de sa puissance ayant paru comme au premier jour chrétien spirituel, après une longue nuit d'apostasie et d'ignorance, l'aurore, le lever du soleil, dont nous ayant visité par la venue spirituelle de nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ayant accordé sa lumière glorieuse et le Saint-Esprit, obéissons-y tous sincèrement et marchons dans la même, afin que nous ayons et jouissions tous de la vie et de la paix en lui, qui nous a ouvert une voie vivante dans la nuit. La dispensation de Christ est spirituelle et glorieuse, à laquelle nous sommes appelés. C'est un ministère de l'Esprit de Christ, de sa lumière et de son Esprit, et il doit s'étendre à tout le monde et durer jusqu'à la fin. Lorsque le Seigneur eut ouvert les yeux de nos esprits et de nos intelligences, de sorte que nos pensées furent tournées des ténèbres vers la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ et de la puissance de Satan vers Dieu, alors nous connûmes la vraie repentance et que notre vrai commencement, afin de recevoir la vraie connaissance spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ et le vrai christianisme, était dans l'esprit et non dans la lettre, ni dans des observances charnelles, des éléments ou des rudiments du monde. Et c'est par ce même Saint-Esprit que l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de ses souffrances ont été révélées et éprouvées en nous peu à peu, à mesure que nous suivions ce même esprit de sainteté. Oh, quelle excellence réside dans la vraie connaissance de notre bienheureux Seigneur Jésus-Christ! Et à quelle pauvreté d'esprit, et à quelle perte de tout ce qui est du moi les hommes doivent-ils être réduits, pour obtenir cette connaissance, gagner Christ et être trouvés en lui, selon la confession du saint apôtre. Phil 3, 8-9. Et à quelle communion des souffrances de Christ les personnes doivent-elles être conduites, si elles sont rendues conformes à sa mort, et en viennent à avoir ou à jouir de la justice qui vient de Dieu par la foi, oui, par la foi de Christ. Quelles furent donc les souffrances de Christ? Certainement, Il a porté nos douleurs et s'est chargé de nos souffrances. Il a été blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été opprimé et affligé. Assurément, ceux qui entrent véritablement dans la communion des souffrances de Christ doivent y entrer spirituellement, en étant sensiblement chargés, attristés et dans la douleur, blessés et meurtris, châtiés et affligés pour leurs propres transgressions et iniquités, sous les reproches et les châtiments de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la vraie repentance, à la rémission et au pardon de leurs iniquités par Christ qui fut blessé, meurtri, oui, et crucifié pour eux bien qu'il n'ait jamais péché, et afin d'être rendu conforme à sa mort. Les hommes doivent venir sous la mort de la croix, et par la puissance de Christ, être baptisés en sa mort, ayant crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises corrompues, ce que ceux qui sont de vrais disciples de Christ ont fait, étant ressuscités avec lui par la foi en l'opération de Dieu. Une telle souffrance, mort, résurrection et vie avec Christ pour Dieu, doit nécessairement être connue et intérieurement expérimentée chez les vrais croyants, par l'œuvre de sa grâce et du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons tous diligemment le suivre et marcher en cela, afin que, comme nous avons tous bien commencé au véritable commencement dans l'Esprit, nous poursuivions fidèlement jusqu'à la fin bénie et à la couronne de justice. Chers amis, combien il est précieux d'être participant de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, notre Seigneur, par la communion, les fruits et le bénéfice de ses souffrances, de sa médiation et de son intercession. Estimons à jamais véritablement le grand amour de Dieu, si éminemment manifesté en son Fils bien-aimé Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. Comme la vraie connaissance salvatrice de Jésus-Christ n'est que selon l'Esprit et non selon la chair, et comme le mystère glorieux de Christ en l'homme est révélé par l'Esprit, nous devons donc tous avoir une pensée spirituelle, en prêtant attention à la lumière divine et au Saint-Esprit de grâce dans nos cœurs, et nous connaître les uns les autres selon l'Esprit, dans le sens et la communion spirituelle, afin que la communion de ce mystère de Christ soit véritablement connue et avec la vie augmente parmi nous à la gloire de Dieu et à l'homme. Je me souviens bien comment, au premier temps, après que nous eûmes été véritablement convaincus, et que nous eûmes reçu la vérité bénie dans son amour et sa simplicité, et que nous eûmes été conduits à la simplicité de parole et d'habits, etc. Nous participions aussi, dans une certaine mesure, extérieurement, à la communion des souffrances de Christ en étant reprochés, opposés, contredits et calomniés pour son nom et pour la vérité, par des professants croyants méchants et dissolus et des profanes impies et mauvais. Nous nous soumîmes à l'obéissance et au port de la croix pour l'amour de celui qui, avant nous, endura une croix plus sévère pour nous. C'est dans l'amour de la vérité vivante et de la simplicité qui est en Christ Jésus, par l'obéissance à lui dans sa lumière et sa grâce, que nous lui avons été fiancés. Ce progrès ne doit être oublié par aucun de ceux qui veulent être fiancés en justice, dans un amour vrai et constant, à Christ Jésus comme notre chef spirituel et époux, ce qu'il est véritablement pour son Église ou corps mystique.
Donc,
mes chers et bien-aimés amis, retirez-vous intérieurement dans vos pensées et vos esprits, vers la lumière, la grâce, la bonne parole et l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ en vous, afin que vous fassiez l'expérience de la sainte semence, la parole de vie éternelle et de grâce croissant et prévalant de plus en plus, jusqu'à une naissance immortelle et une sainte génération, à mesure que vous naissez de la même. Chers amis, je ne puis que me souvenir de l'amour de nos fiançailles et de la bonté de notre jeunesse au commencement, au premier jour, et vous les rappeler lorsque, comme des vierges chastes, nous étions fiancés à Jésus-Christ et alors peu nombreux, et combien nous nous aimions sincèrement les uns les autres, de sorte que nous étions la joie les uns des autres dans le Seigneur. Lui qui dit autrefois à Jérusalem, « Je me souviens de la bonté de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, lorsque tu me suivais dans le désert, dans une terre qui n'est... » Oh, que le premier amour de nos fiançailles ne soit jamais amoindri, ni abandonné, ni oublié, mais conservé à jamais. Autrement nous ne pouvons vivre pour Dieu ni prospérer dans une vie chrétienne en Christ Jésus, ni demeurer chaste pour lui comme sa véritable époux et l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux. Maintenant, chers amis, entrer et vivre dans un véritable amour et une véritable vie chrétienne doit passer par un réel renoncement à soi-même, par le fait de prendre chaque jour la croix et de suivre Christ Jésus, son exemple et ses traces. Car c'est à cela que vous avez été appelés, puisque Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2:21 Ce renoncement à soi-même doit être un abaissement et un reniement de tout moi orgueilleux et présomptueux, qui s'élève au-dessus des autres, dans un orgueil secret abondant dans son propre sens, méprisant et condamnant les autres. Et quels que soient les autres maux et corruptions auxquels le moi pervers est enclin, tout cela doit être renié et entièrement rejeté par tous ceux qui viennent à embrasser une vie et une condition chrétienne humble. Ce véritable renoncement à soi-même ne permettra à personne d'exercer une domination sur l'héritage de Dieu, ni de le gouverner avec rigidité, même s'il prétendait être ancien. Au contraire, le véritable renoncement à soi-même conduit à être des exemples humbles pour le troupeau de Christ, et comme des aides et compagnons de travail dans le Seigneur, pour les plus jeunes, les faibles, les infirmes et les délicats, de sorte qu'on n'était en aucun de tels toute bonne intention ou tout désir, et en toute humilité de pensée, douceur et longanimité, se supportant ou se soutenant les uns les autres dans l'amour, s'appliquant ainsi à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et puisque nous sommes appelés par un seul esprit à une seule vraie lumière, vie et amour, appliquons-nous tous diligemment dans l'humilité à y marcher, afin que nous paraissions véritablement être un peuple particulier de Dieu et de Christ, une seule Église des premiers-nés, une seule société spirituelle, et une seule ville située sur une montagne, concitoyens des saints, établie sur la sainte colline de Sion, brillant de son éclat, dans toute sainte conduite, à la gloire de notre Dieu. Car telle est la condition bénie et glorieuse de la véritable Église, la Sion spirituelle, la Jérusalem céleste, dans laquelle les saints, l'Église primitive de Christ et les vrais chrétiens d'autrefois étaient entrés, et aussi auprès de Jésus le médiateur de la Nouvelle Alliance. Le Seigneur leur a ouvert les yeux, de sorte qu'ils furent tournés des ténèbres vers sa lumière et devinrent ainsi lumière dans le Seigneur. Et ils n'étaient plus des étrangers, ni des gens du dehors vis-à-vis de la République d'Israël, eux qui demeurèrent fidèles et vrais croyants. Oh, que les privilèges et les bénédictions spirituelles en Christ Jésus sont grands, dont participent ses fidèles sujets et concitoyens des saints, même en cette vie, et combien davantage dans celle à venir, dans son royaume de gloire et de triomphe. Sion et Jérusalem, lorsque les solennités du culte d'Israël étaient célébrées dans le Temple, comme Dieu l'avait ordonné sous la loi, étaient dans une grande splendeur et acclamation, préfigurant la véritable Église spirituelle, ou la Cité des Saints et ses solennités, sous la dispensation de Christ et de ses glorieux évangiles, en qui les promesses les plus excellentes et glorieuses faites à la Sion spirituelle et à la Jérusalem céleste, qui sont oui Amen, s'accomplissent dans son Église évangélique. L'Éternel aime les portes de Sion. Encore, regarde Sion, la cité de nos solennités, tes yeux verront Jérusalem, demeure paisible et tabernacle qui ne sera pas abattu. Cela ne s'est pas accompli pour la Jérusalem terrestre, car elle fut abattue et dévastée, avec le temple et ses somptueux bâtiments, à cause des grandes provocations, iniquités et cruelles persécutions des Juifs contre les serviteurs du Seigneur, et même contre le Fils de Dieu lui-même. Maintenant, bien-aimés amis et frères, qui êtes appelés hors des ténèbres à la vraie lumière, et à être concitoyens des saints dans la lumière, de qui l'on peut dire, « Vous êtes venus à la montagne de Sion, et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Marchez dans la lumière de la sainte cité de Dieu, où le Seigneur Dieu et l'Agneau est la lumière, et où les nations de ceux qui sont sauvés doivent marcher, afin que le salut vous environne et vous soit comme des murailles et des remparts, pour que l'ennemi ne vous envahisse ni ne vous disperse, afin que la justice de Sion et de Jérusalem éclate comme l'aurore, et son salut comme une lampe qui brûle. Lève-toi donc, ô Sion, et resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Revêt ta force, ô Sion, revêt tes beaux vêtements, ô Jérusalem, la ville sainte. S'il vous plaît, amis, considérez quels sont les beaux vêtements que les habitants de la cité de Dieu doivent revêtir et dont ils doivent être vêtus, dans notre Sion et notre Jérusalem, la véritable Église spirituelle. Ne doivent-ils pas être tels que le saint apôtre exhorte à revêtir et les décrit? À savoir, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'affection, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres, et vous pardonnant les uns aux autres si quelqu'un a sujet de plainte ou de crêle contre un autre, comme Christ a pardonné, faites de même. Mais d'abord il faut ôter les vêtements souillés, dépouiller le vieil homme avec ses convoitises corrompues et ses œuvres mauvaises, avec tous les haillons souillés de la justice propre. Ceux-ci doivent être mortifiés et déposés, et la créature aussi dépouillée de tous ses propres haillons souillés de justice propre, avant de pouvoir être revêtue des beaux vêtements de Sion, ou de la Jérusalem céleste, la véritable épouse de Christ Jésus, ou d'être unie à l'Agneau. Il importe donc grandement à tous de le suivre dans l'œuvre de la régénération, dans l'œuvre de la sanctification par son Saint-Esprit et sa puissance, et d'y croire et de lui obéir sincèrement, pour l'achèvement de la sainteté dans la crainte de Dieu, afin que Christ soit formé en vous, et que dans sa vie manifestée en vous, tous puissent briller comme le peuple appelé, choisi et fidèle de Dieu, pour votre paix éternelle en son Fils bien-aimé, et pour l'honneur, la gloire et la renommée de son grand et excellent nom à jamais. Je voudrais encore vous rappeler cette grave exhortation du saint apôtre à l'Église de Christ des Colossiens, « Par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire du véritable amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous êtes appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, et qu'il vous revête de son Saint-Esprit de grâce, de sagesse et de révélation dans la connaissance du mystère de Christ, afin qu'il demeure dans vos cœurs par la foi, et que par sa puissance, vous soyez de plus en plus enracinés et fondés dans son amour, sa grâce et sa paix à la gloire de son nom, et pour votre consolation éternelle et votre joie dans son royaume céleste. Amen. La divinité de Christ défendue par des Écritures et des prophéties qui ont annoncé sa vie. Remarque, il existe des centaines d'autres prophéties, faites des centaines d'années avant la naissance de Jésus, toutes accomplies. Cliquez ici pour voir. Maintenant, chers amis, considérons le Fils unique de Dieu, notre bienheureux Seigneur Jésus-Christ, et quelle confession et quel honneur lui sont rendus dans la Sainte Écriture, tant en ce qui concerne sa divinité éternelle et son humanité parfaite, que sa venue ainsi manifestée en son temps, ce que je mentionne afin de nous disculper, nous le peuple appelé Quakers, des imputations injustes de nos adversaires, tantôt nous accusant de nier la divinité, tantôt de nier l'humanité de Christ ou les deux comme certains l'ont fait, et afin. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, une vierge concevra et enfantera un fils, et elle appellera son nom Emmanuel. Écrit 750 ans avant la naissance terrestre de Christ, une prophétie de Jésus-Christ concernant sa naissance de la Vierge comme enfant mâle, et le fait qu'il soit Emmanuel, Dieu avec nous ou en nous. Ésaïe 9:6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on l'appellera du nom de Merveilleux, Conseiller, Dieu puissant, Prince de paix éternelle. Écrit 711 avant la naissance terrestre de Christ, une excellente prophétie et un témoignage au sujet de Jésus-Christ, concernant sa naissance comme enfant mâle, et sa sagesse divine et sa divinité, comme Dieu puissant, etc. Michée 5:2 et Matthieu 23:2-1. Et toi, Bethléem Ephrata, quoique tu sois petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit être chef en Israël, et ses origines remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Michée a écrit cette prophétie 750 ans avant la naissance terrestre de Christ, montrant que Christ existait, quant à sa divinité, avant sa naissance à Bethléem en Juda. Jean 1:14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Romains 1:3-4. Au sujet de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Et Romains 9:5. À qui appartiennent les pères et de qui, selon la chair, est issu le Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Ainsi quant au fait que Jésus-Christ soit véritablement homme et fils de Dieu, et Dieu au-dessus de tout, ainsi déclaré. Premièrement, concernant son humanité, il est dit de lui, Luc 2, « Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Et, âgé de 12 ans, il fut trouvé dans le temple au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses, Luc 2, 40, 42, 46, 47. Et Luc 2, 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ô enfant merveilleux et homme céleste des plus excellents, il nous a laissé un exemple béni, afin que nous le suivions et que nous croissions dans sa grâce et sa sagesse, avec l'aide de son Saint-Esprit et de sa puissance. Considérez aussi que, par les œuvres merveilleuses et les miracles que Christ a accomplis sur la terre par la puissance de Dieu, il reçut une grande adoration et un grand honneur dans beaucoup de cœurs. Et ainsi en est-il de ces grandes guérisons spirituelles, qu'il a opérées et accomplies en beaucoup d'âmes en ce jour, par sa lumière et sa puissance divine, gloire et honneur à son nom à jamais. Voir Ésaïe 42, 6, 7, Jean 11, 25, 26, 42, 44, F2, 1 et Psa 147, 7 et Psa 103. Il n'y a aucune raison de mettre en doute Christ, le Fils de Dieu que Dieu a souverainement élevé, lui donnant un nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira. Phil 2, 9, assurément, Dieu puissant ou Dieu au-dessus de tout, est un nom, oui, une puissance divine, au-dessus de tout autre nom. Et pour faire voir à tous quelle est la communion du mystère qui, dès le commencement du monde, a été caché en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. F3, 9. Car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Col 1, 16. Puisque Dieu a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Par Jésus-Christ, cela parle de ce qu'il est la sagesse éternelle, la puissance et la parole de Dieu, Rêve 19, 13, Jean 1, 3, voire pareillement Hébreux 1, 2, Dieu, qui à diverses reprises et de diverses manières, a parlé autrefois au Père par les prophètes, nous a parlé dans ses derniers jours par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui aussi il a fait les mondes. Donc le Fils de Dieu était avant que les mondes fussent faits. Ce qui s'accorde avec Hébreux 11, 3, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Voir aussi Jean 5, 21-23. Comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Comment quelqu'un pourrait-il honorer ainsi le Fils, s'il ne le tient que pour un simple homme? Jean 17, 5. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ce sont les propres paroles et le témoignage de Christ, dans sa prière au Père. voir 1 Jean 5:20. Comment le vrai Dieu et la vie éternelle est attribué au Fils aussi bien qu'au Père, qui sont un, Jean 10:30. Il est aussi à remarquer, les enfants d'Israël, qui furent tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et mangèrent tous la même nourriture spirituelle, et burent tous la même boisson spirituelle, car ils burent de ce rocher spirituel qui les suivait ou allait avec eux, et ce rocher était Christ, 1 Cor 10:2-4. Et cela fut bien avant que Christ vînt dans la chair. Christ était et est le rocher des siècles, et le fondement de nombreuses générations, avant et après sa venue dans la chair. Maintenant, chers et bien-aimés amis, puisque, en tant que peuple, nous avons toujours cru Christ comme la vraie lumière et en sa venue dans la chair, ses témoignages scripturaires à son sujet, quant à sa divinité et son humanité, sont rapportés plutôt en défense de notre foi chrétienne et de notre sainte profession, contre nos adversaires qui, injustement, nous dénient le nom de chrétien, que pour supposer quelques déficiences de votre part à cet égard. Que le Seigneur soit avec vous tous, et qu'il remplisse vos cœurs de son amour bien-aimé et de sa sagesse divine en Christ Jésus. George Whitehead, commentaire de l'éditeur du site. Dans la lettre ci-dessus, Whitehead a précisément abordé les différentes dérives quakes à venir hors de la vérité, en deux directions qu'il traite toutes deux. Peut-être est-ce pourquoi, vers 1850, des auteurs quakes qualifiaient ses écrits de controversés, oubliant la nécessité du renoncement à soi, de la souffrance et de la mort sur la croix, rejetant la divinité de Jésus, le réduisant à un simple homme. Une épître de véritable amour chrétien à tous les amis, appelés ou réputés quakes, qui professent la vraie lumière, pour leur rappeler le commencement et le progrès de l'œuvre et du ministère du Seigneur en notre temps, avec des conseils et des avertissements chrétiens pour l'amour, la concorde et la paix, par leur ancien ami en Christ G. Whitehead, chers et bien-aimés amis, frères et sœurs, âgés et jeunes, que j'aime véritablement dans le Seigneur, oui de cet amour ancien qui a vécu dans mon cœur depuis le commencement. Je bénis le digne nom et la puissance du Seigneur notre Dieu très gracieux, qui jusqu'à ce jour m'a aidé, moi et beaucoup d'autres, ses fidèles serviteurs et ministres, dans son œuvre et son service béni. Et le souffle et la supplication de mon âme à lui, le Père et la source des miséricordes, c'est que sa grâce divine, son amour et sa paix, avec toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus, vous soient à jamais continuées et se multiplient parmi vous. Mes chers amis et frères, ne sachant pas à quel point mes jours ici peuvent bientôt toucher à leur fin astérisque, moi qui suis depuis longtemps profondément engagé dans l'œuvre et le service du Seigneur, dans le ministère de son Évangile et sa moisson, il y a plus de 50 ans que j'ai été appelé pour la première fois à rendre un témoignage public sa bienheureuse vérité, et à la dispensation de son Saint-Esprit et de la Nouvelle Alliance, le Seigneur ayant prolongé mes jours bien au-delà de mes attentes d'autrefois. Je suis donc d'autant plus préoccupé de vous communiquer, mes chers amis, ce qui m'est imposé, et cela dans l'amour de mon Père Céleste, et pour l'aide et l'avantage des générations futures, de ceux qui, après cela, chercheront sincèrement le Seigneur, et pour l'exaltation de la vérité et de la justice sur la terre. Astérisque à sa propre surprise, George Whitehead vécut encore 18 ans et mourut en 1723, tiré de la parole du Seigneur au-dedans, et beaucoup furent convaincus par ce partisan extraordinaire et puissant, comme un ministre du Seigneur capable et digne. 22 jours du 7 mois 1705, la puissance du Seigneur vint sur moi avec un grand poids, à ma grande consolation et à mon rafraîchissement, ouvrant d'une manière particulière de nouveau beaucoup de choses importantes concernant l'état et la condition de son peuple particulier, communément appelé Quakers, à savoir comment, au commencement, nous en vîmes à trembler et frissonner à la parole de Dieu, et les véritables causes de cela, tant sous la puissante administration de la loi et des jugements de Dieu, et aussi sous la dispensation de l'Évangile, afin d'accomplir notre salut avec crainte et tremblement, la lumière de la parole administrant à la fois loi et Évangile, lorsque nous savions que notre Dieu préparait ainsi nos cœurs, opérant en nous le vouloir et le faire, étant également sensible que nous ne pouvions œuvrer sans un certain sens et sentiment intérieur de la parole et de la puissance de Dieu, et de son Christ, opérant en nous une volonté véritable, ainsi que la foi et la capacité. Comme il y a un tremblement du cœur et un abaissement de l'âme sous le sentiment du jugement et de la miséricorde, il faut aussi s'abandonner à servir le Seigneur avec crainte et se réjouir avec tremblement, cela étant pareillement requis des rois et des juges de la terre, sous la dispensation du Fils de Dieu. PS 2, 10-11. Maintenant que cela pénètre les cœurs et les réflexions de tous ceux qui s'y intéressent, quant à notre communion extérieure jeunes et vieux, hommes et femmes, ce que c'est que d'être un vrai quaker et de trembler à la parole de Dieu, de trembler à ses jugements, de trembler en sa présence, voyant que c'est sur celui-ci que je porterai mon regard, dit le Seigneur, sur celui qui est pauvre et qui a l'esprit contrit, et qui tremble à ma parole, Ésaïe 66, 2. Le Seigneur a un tendre égard pour ceux qui sont ainsi exercés dans le sens intérieur de la parole de vie, et il prend soin d'eux. Oui, ainsi parle le très haut et l'élevé, celui qui habite l'éternité, et dont le nom est saint, j'habite dans le lieu très haut et saint, et avec celui qui a l'esprit contrit et humble, afin de ranimer les cœurs des contrits, Ésaïe 57, 15. Cet esprit contrit et humble manque trop, là où la parole de vie et de puissance n'est pas reçue ni considérée intérieurement, là où les personnes s'élèvent et s'exaltent dans leur propre volonté et leur propre esprit, au-dessus du sens et du sentiment intérieur de cette parole, qui attendrirait leur cœur et abaisserait leurs esprits dans une véritable contrition et une tristesse selon Dieu, là où ils peuvent fréquemment se rendre aux assemblées solennelles du peuple du Seigneur, venir et repartir comme entiers, le cœur haut dans leur esprit et leurs pensées. Assurément, une coupe amère de tremblement sera donnée à tels, à la fin, au jugement final après la mort, s'ils ne se repentent pas. Combien étaient-ils parmi nous, au premier jour, à venir sous ces dispensations de la loi et de l'Évangile, sous le sentiment du jugement et de la miséricorde, et à trembler à la parole, et à se soumettre librement au jugement, afin de trouver miséricorde auprès de Dieu en Christ, qui, au milieu du jugement, se souvint de la miséricorde, afin d'être craint. Mais combien aujourd'hui sont sous une profession extérieure de Christ et des prétentions de religion, qui ne vinrent jamais sous ces dispensations, de sorte à être véritablement humiliés, mortifiés et crucifiés au monde? Vous êtes qualifiés ou réputés être Quakers, alors qu'en réalité ils ne sont pas de ceux qui tremblent à la parole ou à la présence de Dieu, ni à cause de ses jugements. Et pourtant il y a en eux autant d'auteurs d'hommes à abaisser, autant de terres en eux à ébranler, qu'il y en eut jamais en chacun de nouveaux commencements. Ésaïe 2, 11. Je suis donc sensible que le fait de frissonner et de trembler à la parole et à la présence du Seigneur Dieu, comme au commencement, est aussi nécessaire à rappeler dans le ministère et la prédication, en ces jours d'aisance et de liberté, que jamais, afin d'humilier ceux qui ne se sont pas repentis de leurs iniquités, étant coupables à la fois de maux manifestes et de péchés secrets. Tous les négliges et paresseux, toutes les personnes tièdes et indifférentes en matière de religion ont besoin de se repentir. Toutes les personnes crêleuses, chicaneuses et désobéissantes ont besoin de se repentir et de réformer leur conduite et leur conversation. Tous les oppresseurs injustes, cupides, terrestres d'esprit, et les personnes nuisibles, ainsi que tous les libertins charnels et les ivrognes, ont grand besoin de se repentir et d'être profondément humiliés sous la main puissante du Seigneur Dieu. Toutes les personnes orgueilleuses obstinées, qui s'exaltent elles-mêmes, et impurs avec tous les chuchoteurs médisants et semeurs de discorde, ont de grandes raisons de chercher la repentance, et de craindre, redouter et trembler devant les jugements et la présence du Seigneur Dieu, et pour que cela arrive, il faut qu'elles soient alarmées et réveillées de toute leur sécurité charnelle, de leur aisance selon la chair et de leur faux repos, pour venir à la repentance. S'il plaît au Seigneur de leur donner une place et un cœur pour se repentir avant de l'avoir fait, un terrible ébranlement, une profonde tristesse, des pleurs, des lamentations doivent tomber sur elles, avant qu'il n'entre dans une vraie réjouissance dans le Seigneur avec tremblement, car il doit y avoir un terrible ébranlement avant un tremblement joyeux. Ceux qui sont négligés et alléhensions, sous la profession de la vérité, et ceux qui ont décliné de leur premier amour et de la simplicité qui est en Christ, ainsi que les esprits instables, sont enclins à affectionner des envolées élevées, des élans soudains et hauts, des sons et des tons plus que la saine substance, et ensuite à tomber dans des exaltations et des affectations plutôt que dans l'humilité ou un sens profond de la vie, et à imiter une sorte de chant qui n'est ni dans l'esprit ni avec intelligence, comme dans les églises primitives. Tandis que le véritable travail du ministère de l'Évangile est un travail de fondation, c'est un travail d'édification, dans un jugement saint, dans un esprit saint, dans une compréhension claire, et il tente à amener le peuple à être ferme dans la foi vraie et vivante, au nom et dans la puissance de Jésus-Christ, cette foi qui agit par l'amour, de sorte que ce travail de fondation du ministère de Christ tente à affermir les esprits dans l'humilité, dans le renoncement à soi, dans la sainte crainte du Seigneur, dans la vraie. Ce ministère de Christ et son Évangile éternel, dont l'œuvre est à la fois de convaincre, de convertir et d'édifier, nous l'avons reçu au commencement par degrés, peu à peu, il croissait en nous à mesure que nous croissions, dans la semence de la vie éternelle, selon qu'il plut au Seigneur de nous l'ouvrir graduellement, à nous et en nous. Nous n'osions pas nous efforcer de courir dans les dons d'autrui, ni nous élever au-dessus de nos anciens en Christ, ni nous rendre égaux à eux dans le ministère, mais demeurer dans nos propres mesures et dons, ni nous élever au-dessus de nos anciens en Christ, ni nous rendre égaux à eux dans le ministère, mais demeurer dans nos propres mesures et dons. Et notre exercice envers les autres se faisait dans un saint soin, dans beaucoup de crainte, et aussi avec un tremblement intérieur, oui, et souvent extérieur afin de ne pas dépasser, étendre ou forcer au-delà de nos propres mesures ou acquisitions, ni nous efforcer de nous montrer égaux à ceux qui nous précédaient en Christ et étaient plus largement doués dans le ministère que nous-mêmes. Mais chacun prenait soin de rester dans les bornes de ses propres dons et acquisitions, et en cela, tandis que nous veillions à ce soin, le Seigneur nous aida, Nous savions qu'il était de notre devoir d'attendre diligemment et de nous attacher uniquement au Seigneur notre Dieu, dans l'humilité et la crainte, afin d'avoir un vrai sens de l'état et de la condition des réunions, partout où le Seigneur nous ordonnait d'aller, et qu'il nous ouvrirait un ministère et un témoignage convenable aux auditeurs, de sorte que nous puissions discerner et sentir où le peuple était préparé et prompt à entendre, et où il était lent à entendre, une porte d'entrée étant ouverte au premier, ainsi qu'une porte de parole vers. Il doit y avoir un ébranlement de la terre et des cieux aussi, avant que les gens n'en viennent à une compréhension juste et claire des mystères du royaume de Christ, et à servir le Seigneur notre Dieu avec grâce, avec révérence et crainte selon Dieu, dans laquelle il faut recevoir ce royaume qui ne peut être ébranlé. la fausse foi, la fausse espérance, les faux repos, la fausse paix, la fausse joie, doivent tous être ébranlés et ôtés, ainsi que la part terrestre en l'homme, s'ils doivent jamais parvenir à la stabilité en Jésus-Christ et dans son royaume qui ne peut être ébranlé ni déplacé. Tremble, ô terre, ô vous habitants de la terre, à la présence du Dieu de Jacob et d'Israël, et vous tous cieux qui doivent être ôtés, faux repos, fausse paix et joie, établis et formés dans les imaginations des esprits terrestres et des volontés des hommes et des femmes déchus, soyez ôtés afin que Christ soit reçu et exalté, et que son royaume soit connu et établi. La parole perçant et pénétrante traverse les cœurs, les esprits et les âmes enténébrés, pour amener les hommes à connaître leur état et conditions intérieures, leurs pensées secrètes, leurs désirs et leurs intentions. Et cette parole découvre et frappe, non seulement les mots manifestement grossiers, tels que l'ivrognerie, la débauche, la fureur, mais aussi les méchancetés spirituelles dans les lieux élevés. Et elle produira une œuvre complète de sanctification et de salut en ceux qui, dans la douceur, la reçoivent et lui obéissent. Et chers amis et frères, notre Dieu étant un Dieu d'amour et de paix, un Dieu d'ordre, et non de crêle ni de confusion, que son amour et sa paix habitent dans vos cœurs, et que dans cet esprit soit votre unité, afin que l'amour croisse et abonde parmi vous, et faites toutes choses et tout service auxquels vous êtes appelés dans l'amour, oui, dans la vie et l'esprit tendre et paisible de notre Seigneur Jésus-Christ, selon ses exhortations apostoliques, que rien ne se fasse par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité. Et si quelqu'un paraît être porté à la contestation, nous n'avons pas une telle coutume, ni les églises de Dieu. 1 Cor 11-16. Car nous savons très bien que le témoignage de la vérité est contre tous les esprits turbulents, présomptueux et crêleurs, et de tels ne doivent pas avoir d'influence ni régner, ni siéger comme juge ou instructeur dans les affaires de la vérité, l'ordre ou la discipline de l'Église, mais c'est le vrai jugement et la puissance de Dieu qui doivent régner et être établis au-dessus de tout. Et puisque le témoignage de la vérité, en toutes ses parties et branches, dans la crainte de Dieu, doit être observé et gardé, certainement le paiement des dettes justes en temps voulu, l'exécution due des contrats, et la tenue des promesses qui en découlent, ne sont pas une petite partie de ce témoignage, mais concernent la pratique même de la vérité et de la vraie religion. Le contraire, à savoir refuser le paiement de dettes justes, rompre des promesses ou retarder le paiement, au préjudice et à l'oppression des créanciers, cela est directement contraire au témoignage de la vérité, en est une violation, et est condamnable aux yeux de Dieu et des hommes, tout autant que l'avidité, l'oppression, l'extorsion, la fraude et le fait de prendre l'avantage sur autrui. Comment de telles personnes peuvent-elles être estimées de vrais chrétiens, elles qui sont corrompues dans leurs mœurs, ou comment pourraient-elles être dignes de confiance pour de vraies et durables richesses, elles qui ne sont pas justes dans le mammon de ce monde. La cupidité, qui est idolâtrie, la hâte de devenir riche et la poursuite avide des richesses de ce monde ont été la ruine de beaucoup. Par là, ils sont tombés dans de nombreuses convoitises funestes qui plongent les hommes dans la perdition. Tenez-vous donc à l'écart, et demeurez à l'écart de tous ces maux, et de toutes occasions de reproche et de scandale, et maintenez le saint témoignage de la vérité en toutes choses. Oh, que tous prennent soin de vivre dans la vérité et la justice, afin que vous puissiez laisser derrière vous un bon témoignage lorsque vous mourrez. Et pour l'honneur de notre témoignage et la bonne réputation de la vérité que nous professons, il importe grandement que tous les ministres, anciens et surveillants dans les églises de Christ parmi nous soient irréprochables dans leur conduite, en accord avec notre sainte profession de parole. Les chefs et juges que Moïse établit sur le peuple d'Israël, pour juger même les petites affaires, devaient être des hommes capables, craignant Dieu, des hommes de vérité, haïssant la cupidité, Exode 18. Comme celui qui gouverne les hommes doit être juste, gouvernant dans la crainte de Dieu, de même les ministres, anciens et surveillants de Christ dans son Église doivent être irréprochables, non avides d'un gain honteux, non cupides, de plus celui qui est évêque ou surveillant doit avoir une bonne réputation auprès de ceux du dehors, sinon il tombera dans la calomnie et le reproche, et dans le piège du diable. Comme le saint apôtre Paul expose plus pleinement l'état et les qualifications de chacun, voir 1 Tim 3:2-6, et l'apôtre Pierre le fait aussi, 1 Pierre 5:2-5, voir aussi Hébreux 12:7-17. C'est la vie de Jésus-Christ qui doit prêcher dans ses ministres et ses serviteurs, leur conduite doit prêcher la justice, l'innocence, et être à l'abri du blâme. Ce sont de tels ministres qui vivent dans cette vie, qui sont prêts à donner pleine preuve de leur ministère, en témoignant contre tout ce qui lui est contraire. Quelle autorité ont-ils pour prêcher contre la cupidité, l'immoralité et l'injustice, ceux qui en sont eux-mêmes coupables? Assurément, ils n'ont aucune autorité divine, ni vie ni puissance, lorsqu'ils se savent coupables des mêmes choses. La vérité et la justice doivent venir au-dessus de tout, agir à travers tout, et prévaloir, et l'agneau doit avoir la victoire, dans la douceur et l'innocence duquel vous devez tous vivre et demeurer. Je supplie tous les amis, jeunes et vieux, pour l'amour du Seigneur, pour l'honneur de son nom glorieux et de sa sainte vérité, et comme saints exemples, d'être diligents et fidèles à tenir vos réunions, qui sont entièrement destinées au culte du Dieu vivant, en observant les temps et les saisons d'adoration. Comme la puissance et la sagesse du Seigneur ont été, et sont, l'autorité de vos réunions concernant les affaires de l'Église, à savoir celles des hommes fidèles et celles des femmes fidèles, tandis que vous attendez humblement de sentir la puissance et de vous soumettre à cette même puissance bénie, dans la sainte crainte du Dieu Tout-Puissant, afin que son Saint-Esprit et sa puissance sanctifiée couvrent de leur ombre toutes vos assemblées pour sa louange et votre grande consolation en notre Seigneur Jésus-Christ. Attendez tous sa sagesse et son conseil, lui qui est le conseiller admirable, et demeurez dans son amour les uns envers les autres, en quoi se trouve l'unité, la concorde et la paix, et sa gloire brillera sur tous parmi vous dans toutes vos réunions solennelles pour sa louange et votre grand réconfort, lui qui a rassemblé et affermi nos réunions, tant celles des hommes que celles des femmes, pour son service dans l'exercice du véritable amour et de la charité, et la pratique réelle de cette religion pure que le Seigneur notre Dieu nous a révélée et dans la... Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dispersés, que le Seigneur règne, afin que la terre se réjouisse, que le roi de Sion règne dans la justice et prospère. Amen, amen. George Whitehead, lettre de Whitehead. Décision concernant un différend dans la société, entre la puissance du sacrifice extérieur de Christ et la puissance de la lumière intérieure en lien avec le salut contexte du différend. George Keith, un Quaker en Pennsylvanie, peu après la mort de George Fox, entama un différend doctrinal qui déchira gravement les Quakers américains. Il déclara qu'il était incorrect de croire que la lumière de Christ soit suffisante au salut, en commençant par dire qu'il fallait autre chose, puis il préconisa un credo Quaker de foi comme nécessaire. Il défendit ensuite la croyance que les événements de la vie de Christ rapportés par les Écritures suffisaient au salut, c'est-à-dire un salut instantané par la grâce. Cette position était totalement contraire aux enseignements de George Fox et de tous les premiers Quakers, qui disaient que la lumière au-dedans de l'homme était le seul moyen d'être instruit, convaincu de péché et purifié du péché jusqu'à la pureté, l'union et le royaume, cette purification étant la croix de Christ qui doit être endurée pour le salut. Ainsi tout le fondement de la foi Quaker fut attaqué en Amérique, de l'intérieur même des membres Quakers, et cela réussit à en détourner beaucoup de la croix, vers une supposée liberté de vivre dans le péché et la dépravation. L'organisation Quaker en Amérique réagit lentement et tarda à répudier cette doctrine subversive, paraissant si soucieuse d'une brebis perdue, que la brebis perdue conduisit une partie notable du troupeau à sortir définitivement de la société des amis, non seulement à Philadelphie, mais dans tout le Nord-Est. Finalement, ils statuèrent contre lui. Mais à ce moment-là, il disposait d'un soutien si fort parmi les membres trompés qu'il décida d'interjeter appel de la décision en Angleterre, qui n'avait aucune autorité sur les sociétés américaines, sinon un avis consultatif de poids. Fait intéressant, la réunion d'Angleterre censura les deux parties dans le différend, tout en rejetant l'appel. Mais leur tentative de résoudre la question en tapant sur les doigts des deux parties ne fit que prolonger le différend, cette fois avec Keith restant à Londres pour recruter dans les assemblées anglaises, afin d'ajouter à son troupeau de brebis perdues. Cela força finalement la réunion annuelle suivante à se désolidariser de lui. Par la suite, la plupart des dissides américains devinrent des baptistes, chrétiens, certains même des baptistes du septième jour, peu en Angleterre furent trompés par Keith. Keith devint ministre épiscopalien et fut fort acclamé dans tout l'establishment de l'Église d'Angleterre, montrant finalement ses véritables sentiments, qui n'étaient nullement en sympathie avec le corps principal des Quakers, ce qu'il avait d'abord prétendu et ce que la réunion annuelle anglaise crut d'abord, manquant ainsi de recommander promptement une exclusion sans équivoque de la société. Comme Keith mourut en 1714 en Europe, il remarqua, peu avant sa mort, il croyait que si Dieu l'avait retiré du monde lorsqu'il était allé parmi les Quakers et dans cette profession, cela aurait été bien pour lui. Ce qui suit est une lettre de réponse de la réunion annuelle d'Angleterre à l'appel de Keith. Elle est fournie pour montrer la place de l'Écriture par rapport à la lumière et le Christ intérieur par rapport au Christ extérieur, une clarification très instructive provenant principalement de George Whitehead, premier signataire de la lettre. Attendu que plusieurs récits ont été récemment publiés et imprimés, au sujet d'une division survenue dernièrement parmi ceux qui portent le nom de Quakers en Pennsylvanie, à propos de plusieurs doctrines fondamentales de la foi chrétienne, comme elles sont présentées par une partie, lesquelles étant particulièrement mentionnées, ont servi à nos adversaires pour reprocher le ministère chrétien et l'ensemble du peuple communément appelé Quakers, et leur sainte et chrétienne profession, tant en Angleterre qu'ailleurs, bien que nullement concernée. Nous sommes donc, avec un tendre souci pour la vérité, au nom dudit peuple quant au corps d'entre eux, et pour tous ceux d'entre eux qui sont sincères envers Dieu et fidèles à leurs principes et professions chrétiens, déterminés à employer un juste effort pour ôter le reproche et toute jalousie sans fondement à notre sujet, touchant ces doctrines du christianisme, ou l'une quelconque d'entre elles, que l'on prétend ou suppose être en question dans ladite division. À ce propos, nous déclarons dans la crainte de Dieu, et dans la simplicité et la droiture, Nous professons sincèrement la foi en Dieu par son Fils unique Jésus-Christ, comme étant notre lumière et notre vie, notre seul chemin vers le Père, et aussi notre seul médiateur et avocat auprès du Père. Que Dieu a créé toutes choses, il a fait les mondes par son Fils Jésus-Christ, celui-ci étant cette parole de Dieu puissante et vivante par laquelle toutes choses ont été faites. Que le Père, la parole et le Saint-Esprit sont un, dans l'être divin inséparable, un seul vrai Dieu vivant et éternel, béni à jamais. Et pourtant cette parole où ce Fils de Dieu, dans la plénitude des temps, prit chair, devint l'homme parfait selon la chair, descendant et venant de la semence d'Abraham et de David, mais fut miraculeusement conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Et il fut encore déclaré puissamment être le Fils de Dieu, selon l'Esprit de sanctification, par la résurrection d'entre les morts. Que cette parole, ou Fils de Dieu, était vie, et que cette même vie était la lumière des hommes, et qu'il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, et donc que les hommes doivent croire en la lumière, afin de devenir enfants de la lumière. Par là nous croyons en Christ, le Fils de Dieu, comme étant la lumière et la vie au-dedans de nous, et en lui nous devons avoir un respect sincère, honneur et foi en Christ, tant dans sa propre gloire et plénitude inaccessible et incompréhensible, comme il est la source de la vie et de la lumière, que comme celui qui nous les donne, Christ en lui-même et en nous, n'étant pas divisé. Que comme homme, Christ mourut pour nos péchés et ressuscita, et fut reçu dans la gloire dans les cieux, lui qui, en mourant pour tous, fut cette unique grande offrande et ce sacrifice universel pour la paix, l'expiation et la réconciliation entre Dieu et l'homme. Et il est la propitiation non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Nous avons été réconciliés par sa mort, mais sauvés par sa vie, cette vie étant la lumière des hommes, donnée à tous les hommes afin qu'ils puissent croire ce que la lumière leur révèle en eux. Que Jésus-Christ, qui siège à la droite du trône de la majesté dans les cieux, est pourtant notre roi, souverain sacrificateur et prophète, dans son Église, un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, que le Seigneur a dressé, et non l'homme. Il est intercesseur et avocat auprès du Père dans le ciel, et y paraît en la présence de Dieu pour nous, étant touché par le sentiment de nos infirmités, souffrances et douleurs, et aussi, par son esprit dans nos cœurs, il intercède selon la volonté de Dieu, criant « Abba, Père ». Car quiconque Dieu a doté et appelé sincèrement à prêcher la foi en ce même Christ, à la fois comme étant au-dedans et au-dehors de nous, ne peut prêcher de Christ, mais un seul et même Seigneur Jésus-Christ, ayant égard à ses degrés de notre connaissance spirituelle de Jésus-Christ en nous, et à sa plénitude et à sa gloire indicible comme en lui-même, dans son être entier en quoi Christ lui-même, et la moindre mesure de sa lumière ou de sa vie comme en nous, ou dans l'humanité ne sont pas divisés ni séparables, pas plus que le soleil. Et comme il est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose, sa plénitude ne peut être comprise ni contenue par aucune créature finie, mais elle est connue et expérimentée en nous en mesure, selon notre capacité à la recevoir, car de sa plénitude nous avons reçu grâce sur grâce. Christ notre médiateur a reçu l'Esprit, non par mesure, mais en plénitude, mais à chacun de nous est donné la grâce selon la mesure de son don. Que l'évangile de la grâce de Dieu doit être prêché au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, étant un en puissance, sagesse et bonté, et indivisible, ou ne devant pas être divisé dans la grande œuvre du salut de l'homme. Nous confessons et croyons sincèrement en Jésus-Christ, tant comme vrai Dieu et homme parfait, et qu'il est l'auteur de notre foi vivant dans la puissance et la bonté de Dieu, telles qu'elles sont manifestées en son Fils Jésus-Christ, et par son propre Esprit béni ou onction divine révélée en nous, par laquelle nous sentons et goûtons intérieurement sa bonté de vie et de vertu, de sorte que nos âmes vivent et prospèrent par lui et en lui, et dans le sens intérieur de cette puissance divine de Christ et la foi en celle-ci, et cette expérience. Que l'honneur et l'adoration divins sont dus au Fils de Dieu, et qu'en vraie foi il faut lui adresser la prière et invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme le faisaient les chrétiens primitifs, à cause de la glorieuse union unité du Père et du Fils, et que nous ne pouvons offrir de manière acceptable à Dieu des prières ou des louanges, ni recevoir de Dieu une réponse de grâce ou une bénédiction, sinon en est par son cher Fils Christ, que le corps de Christ qui fut crucifié n'était pas la divinité, mais qu'il fut néanmoins ressuscité. Sa chair ne vit pas la corruption, elle ne se corrompit pas, mais néanmoins sans doute, son corps fut changé en une condition plus glorieuse et céleste qu'il n'était lorsqu'il était sujet à tant de souffrances sur la terre. Mais comment et de quelle manière ce changement s'opéra après sa résurrection, au point de devenir un corps si glorieux qu'il est déclaré l'être, cela est trop merveilleux pour que les mortels puissent le concevoir, le comprendre ou s'y immiscer, et cela convient mieux aux anges à contempler. L'Écriture est silencieuse quant à la manière, et nous ne sommes pas curieux d'en faire enquête ni d'en disputer, nous n'estimons pas non plus nécessaire de nous rendre plus sages que ce qui est écrit, quant à la manière ou à la condition du corps glorieux de Christ au ciel, pas plus que d'enquérir comment Christ apparut de diverses manières ou formes, ou comment il entra parmi ses disciples alors que les portes étaient fermées, ou comment il disparut de leur vue après être ressuscité. Cependant, nous avons raison de croire que son corps est au ciel, changé en une condition très glorieuse, dépassant de loin ce qu'il était sur la terre. Autrement, comment notre corps d'abaissement serait-il changé pour devenir semblable à son corps glorieux? car lorsqu'il était sur la terre, accompagné de souffrances, il était dit qu'il nous était semblable en toutes choses, le péché excepté, ce qui ne pourrait peut-être pas se dire de lui maintenant qu'il est dans un état de gloire, comme il le demanda dans sa prière, autrement, où serait le changement, tant en lui qu'en nous. La foi vraie vivant en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, a égard à son être entier et à sa plénitude, à lui entièrement comme en lui-même, et comme toute puissance dans le ciel et sur la terre lui a été donnée. Et elle a aussi l'œil et le respect tournés vers ce même Fils de Dieu, se faisant connaître intérieurement dans l'âme, en tout degré de sa lumière, de sa vie, de son esprit, de sa grâce, de sa vérité. Et comme il est à la fois la parole de la foi et un esprit vivifiant en nous, par lequel il est la cause immédiate. Et le Fils de Dieu ne peut être divisé d'avec la moindre ou la plus faible manifestation de sa propre lumière ou vie divine en nous dans l'humanité, pas plus que le soleil ne l'est de sa propre lumière. Et la suffisance de sa lumière au-dedans n'est pas, de notre part, établie en opposition à lui l'homme Christ, ni à sa plénitude considérée comme en lui-même ou au-dehors de nous. Et aucune mesure ni aucun degré de lumière reçue de Christ en tant que tel ne peut être proprement appelée la plénitude de Christ ou Christ en plénitude. Et là où le moindre degré ou la moindre mesure de cette lumière et de cette vie de Christ au-dedans est sincèrement attendue, suivie et obéie, on connaît et on ressent un bienheureux accroissement de lumière et de grâce, comme le sentier des justes brille de plus en plus jusqu'au jour parfait, et par là une croissance en grâce, et dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, a été et est véritablement expérimentée. Et cette lumière, cette vie, ou cet esprit de Christ au-dedans, car ils sont un seul principe divin, est suffisant pour conduire dans toute la vérité, ayant en lui les diverses administrations du jugement et de la miséricorde, de la loi et de l'Évangile, oui, cet Évangile qui est prêché à toute créature intelligente sous le ciel. Non seulement, dans sa première administration, il manifeste le péché, et reprend et condamne pour le péché, mais il excite et conduit aussi ceux qui y croient à une vraie repentance, et ensuite à recevoir cette miséricorde, ce pardon et cette rédemption en Jésus-Christ qu'il a obtenu pour l'humanité, selon ses conditions évangéliques de foi en son nom, de vraie repentance et de conversion à Christ, qui sont ainsi requises. La lumière et la vie du Fils de Dieu au-dedans, véritablement obéi et suivi, comme étant le principe de la seconde ou nouvelle alliance, comme Christ la lumière, est confessé l'être lui-même étant la semence parole de foi en tous les hommes, cela ne laisse pas les hommes et les femmes qui croient en la lumière sous la première alliance, ni fil de la servante, comme l'étaient les Juifs littéraux lorsqu'ils s'étaient éloignés de l'Esprit de Dieu et de son Christ en eux, mais cela les conduit naturellement dans la nouvelle alliance, dans la. Il est vrai que nous ne devons pas mettre de côté et qu'aucun ne devrait sous-estimer, mais au contraire tenir en haute estime la vraie prédication et les saintes Écritures, ainsi que la croyance sincère et la foi en Christ, comme étant mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, conjointement avec l'apparition intérieure et spirituelle de Christ et son œuvre de grâce dans l'âme, dans la vie pour ouvrir le mystère de sa mort et accomplir parfaitement notre réconciliation, notre sanctification et notre justification. Même parmi les gentils, Christ doit en conséquence être à la fois prêché, cru et reçu. Cependant, en supposant qu'il y ait eu ou qu'il y ait de tels gentils pieux et consciencieux, en qui Christ était et comme la semence ou le principe de la seconde ou nouvelle alliance, la lumière, la parole de foi comme il est accordé, et que ceux-ci vivent droitement et fidèlement selon cette lumière qu'ils ont, ou selon ce qui de Dieu est rendu connu en eux, et qui donc, dans cet état, ne peuvent périr mais seront sauvés comme il est aussi confessé, et en supposant que ceci n'est pas l'avantage extérieur de la prédication de l'Écriture, ni même la. Ou bien faut-il exclure tous de toute vraie connaissance ou foi de Christ au-dedans d'eux, à moins qu'ils n'aient la connaissance de Christ comme étant au-dehors d'eux, assurément non. Car cela impliquerait une insuffisance en Christ et en sa lumière au-dedans d'eux, et frustrerait la bonne fin et la promesse de Dieu concernant Christ, et son amour et sa grâce libre et universelles envers l'humanité, en envoyant son Fils. Nous croyons charitablement le contraire, à savoir qu'ils doivent avoir quelque vraie foi et quelque part en Christ et en sa médiation, à cause de l'amour gratuit de Dieu en Christ envers tous les hommes, et du fait que Christ est mort pour tous, et qu'il est donné comme lumière des gentils et comme salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et parce qu'ils vivent sincèrement et fidèlement selon sa lumière en eux, et qu'ils sont pieux, consciencieux, acceptés et sauvés comme il est accordé, nous ne pouvons raisonnablement penser qu'un homme sincère, pieux ou craignant Dieu soit totalement dépourvu de christianisme, de quelque nation qu'il soit, car nul ne peut venir à Dieu ni à la piété sinon par Christ, par sa lumière et sa grâce en eux. Toutefois, concédons que si de tels hommes ou femmes pieux et sincères existent, qui n'ont pas l'Écriture ni la connaissance de Christ comme crucifié. Ils ne sont pas des chrétiens parfaits en toute perfection, comme en toute connaissance et dans la compréhension de tous les points de doctrine et la profession extérieure de Christ, de sorte qu'ils valent mieux que ce qu'ils professent ou prétendent être, ils sont plus juifs intérieurement et chrétiens intérieurement que dans l'apparence ou la profession extérieure. Il y a des chrétiens sincères et parfaits quant au genre ou à la nature, quant à la vie et à la substance, quoique non quant à la connaissance et à l'intelligence. Un homme ou une femme ayant la vie et les fruits du vrai christianisme, les fruits de l'Esprit de Christ en eux, qui peuvent parler peu des credos, des points ou articles de foi, oui, beaucoup qui ne savent pas lire, peuvent néanmoins être de vrais chrétiens en esprit et en vie, et certains pourraient mourir pour Christ, qui ne pourraient pas disputer pour lui. Et même les enfants en bas âge qui meurent dans l'innocence ne sont pas exclus de la grâce de Dieu ni du salut en est par Jésus-Christ, l'image et la nature du Fils de Dieu étant en eux, en quelque mesure, et eux sous le soin et la providence spéciale de Dieu. Voir Matthieu 18:3. Et bien que nous eussions les saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, et une croyance en Christ crucifié et ressuscité, etc., nous ne connûmes jamais véritablement le mystère jusqu'à ce que nous fussions tournés vers la lumière de sa grâce et de son esprit au-dedans de nous. Nous ne savions pas ce que c'était d'être réconciliés par sa mort et sauvés par sa vie, ni ce que c'était de connaître la communion de ses souffrances, la puissance de sa résurrection, ou d'être rendus conformes à sa mort. Nous ne le savions pas, jusqu'à ce qu'il ouvre nos yeux et tourne nos esprits des ténèbres vers sa propre lumière et vie divines au-dedans de nous. Néanmoins, nous le faisons sincèrement, et nous estimons et chérissons grandement les Saintes Écritures, la prédication et l'enseignement de personnes fidèles, divinement inspirées, douées et qualifiées, et des ministres de Jésus-Christ, comme de grandes aides extérieures et comme des instruments entre ses mains et par son esprit pour la conversion, là où il plaît à Dieu d'accorder ses aides et moyens extérieurs, de sorte que, de même que nous ne faisons pas et ne pouvons pas opposer la suffisance de la lumière ou de l'esprit de Christ au-dedans. Les Saintes Écritures, ni la vraie prédication extérieure, ne peuvent non plus être justement mises en opposition avec la lumière ou l'esprit de Dieu ou du Christ au-dedans. Car ces fidèles messagers sont des ministres, envoyés pour tourner les personnes vers cette même lumière et ce même esprit en elles. Il est certain que grand est le mystère de la piété en soi, dans son être propre et son excellence, à savoir que Dieu a été et fut manifesté dans la chair, justifié en l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu dans la gloire. C'est aussi un grand et précieux mystère de piété et de christianisme, que le Christ soit spirituellement efficacement dans le cœur des hommes, pour les sauver et les délivrer du péché de Satan et de la servitude de la corruption, Christ étant ainsi révélé chez les vrais croyants et demeurant dans leur cœur par la foi, Christ en vous l'espérance de la gloire, notre lumière et notre vie qui de la part de Dieu nous est fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. Col 1:27, Jean 1:4, 1 Cor 1:30. Ainsi ce mystère de piété, tant dans son être et sa gloire propre que dans les hommes, chez beaucoup caché et chez quelques-uns révélé, a été et doit être attesté, prêché et cru, là où il plaît à Dieu de donner commission et de préparer les cœurs des personnes pour cela, et non selon la volonté de l'homme. Concernant la résurrection des morts, et le grand jour du jugement à venir, au-delà de la tombe ou après la mort, et la venue de Christ au-dehors de nous, pour juger les vivants et les morts, puisque plusieurs questions sont posées en ces termes, ce que les Saintes Écritures déclarent et attestent clairement en ces matières, nous avons de grandes raisons de le croire et de ne pas le mettre en doute, et nous avons toujours été prêts à l'embrasser, conformément aux propres témoignages et aux propres prophéties de Christ et de ses apôtres. 1. Pour la doctrine de la résurrection, si c'est dans cette vie seulement que nous avons espérance en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. 1 Cor 15-19. Nous croyons sincèrement, non seulement à une résurrection en Christ hors de l'état déchu et pécheur ici-bas, mais à un relèvement et à une ascension dans la gloire avec lui par la suite, afin que, lorsqu'il apparaîtra enfin, nous apparaissions avec lui en gloire. Col 3-4, 1 Jean 3-2. Mais que tous les méchants, qui vivent en rébellion contre la lumière de la grâce et meurent finalement impénitents, sortiront pour la résurrection de condamnation. Et que l'âme ou l'esprit de chaque homme et de chaque femme sera conservé dans son être propre, distinct et approprié, de sorte qu'il y aura autant d'âmes dans le monde à venir que dans celui-ci. Et chaque semence, oui chaque âme, aura son propre corps, selon qu'il plaît à Dieu de le lui donner. 1 Cor 15. On sème un corps naturel, on ressuscite un corps spirituel. Ce qui est naturel d'abord, puis ce qui est spirituel. Et bien qu'il soit dit que ce corruptible revêtira l'incorruptibilité, et que ce mortel revêtira l'immortalité, le changement sera tel que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Cor 15-50. Nous serons ressuscités hors de toute corruption et corruptibilité, hors de toute mortalité, et les enfants de Dieu et de la résurrection seront égaux aux anges de Dieu dans les cieux. Et comme les corps célestes surpassent de beaucoup les corps terrestres, ainsi nous attendons que nos corps spirituels dans la résurrection surpasseront de beaucoup ce que sont maintenant nos corps, et nous espérons que nul ne peut justement nous blâmer d'attendre ainsi de meilleurs corps qu'ils ne le sont à présent. Toutefois, nous estimons très inutile de disputer ou de s'interroger sur la manière dont les morts ressuscitent, ou avec quel corps ils viennent, mais plutôt de soumettre cela à la sagesse et au bon plaisir du Dieu Tout-Puissant. 2. Pour la doctrine du jugement éternel. Dieu a remis tout jugement à son Fils Jésus-Christ, et il est juge des vivants et des morts, et des états et des fins de tout le genre humain. Jean 5, 22, 27, Actes 1 au 2, 2 Tim 4, 1 Pierre 4, 5, qu'il y aura dans l'avenir une grande moisson, qui est la fin du monde, un grand jour de jugement, et le jugement de ce grand jour, l'Écriture sainte est claire. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et devant lui seront rassemblées toutes les nations, Matthieu 25, 31-32 jusqu'à la fin, comparé avec Chap. 22-31 Marc 8, 38, Luc 9, 26 et encore 15, 52, 2, 20, 7, 8 jusqu'à la fin, et 1, 4, 16, Apoc 20, 12, 15. Que cet homme céleste béni, ce Fils de l'homme, qui a tant souffert, et enduré tant de grandes indignités et persécutions de la part de ses adversaires, tant contre lui-même que contre ses membres et ses frères, paraîtra enfin, au dernier et grand jour, de manière signalée et manifeste en gloire et en triomphe, accompagné de toute son armée et suite céleste et glorieuse, devant toutes les nations, devant tous ses ennemis, et ceux qui l'ont renié. Ce sera pour eux une grande terreur et un grand effroi, qu'un homme céleste si glorieux et ses frères, qui ont été tant condamnés et comptés pour rien, soient ainsi exaltés au-dessus de leurs ennemis et persécuteurs en gloire et en triomphe, est une chose juste auprès de Dieu, et que ceux qui souffrent avec lui paraissent avec lui en gloire et en dignité lorsqu'il paraît ainsi enfin. Christ était juge du monde et du prince lorsqu'il était sur la terre. Jean 9, 39, 12, 31. Il est encore le juge du monde, de la méchanceté, du prince de ce monde, par sa lumière, son esprit et son évangile dans le cœur et la conscience des hommes. Jean 16, 8, 11, Matthieu 12, 18, 20, Ésaïe 42, 1 Rome 2, 7, 1 Pierre 4, 6. Et il sera le juge et le déterminant final en ce grand jour fixé, Dieu ayant fixé un jour où il jugera le monde avec justice par cet homme qu'il a établi. Christ a prédit qu'au jour du jugement il sera plus supportable pour ceux du pays de Sodome et Gomorre que pour cette ville ou ce peuple qui ne recevrait pas ses messagers ou ministres, etc. Matthieu 10, 15, 11, 24, Marc 6, 11, Luc 10, 12, 14. Il est certain que Dieu sait délivrer les pieux de toutes leurs épreuves et afflictions, et enfin les faire sortir et les ressusciter dans la gloire avec Christ. Ainsi sait-il aussi réserver les injustes et finalement impénitents pour le jour du jugement, afin d'être punis. 2 Pierre 2, 4. Il les fera sortir pour le jour de la destruction, Job 21, 30. Le Seigneur peut et veut réserver de tels criminels impénitents, présomptueux et rebelles, comme liés sous des chaînes de ténèbres, comme le furent les anges déchus pour le jugement du grand jour, Jude 6, Matthieu 25, 30. Il ne nous appartient pas de déterminer ou de disputer la manière dont ils seront ainsi réservés, mais de le laisser à Dieu, il sait comment. Quant à l'opinion de la révolution ou transmigration des âmes humaines, ou de leur passage d'un corps dans un autre, etc. On estime qu'elle a pris naissance chez les païens, et qu'elle fut reçue parmi les juifs et quelques autres par tradition, et qu'on dit qu'elle fut l'opinion d'Empédocle, de Paisego et des Égyptiens, et en partie de Julien l'apostat lorsqu'il rêva que l'âme d'Alexandre le Grand s'était glissée dans sa carcasse, ou plutôt qu'il était lui-même Alexandre dans un autre corps, et que sur cette base, rejetant la demande de paix des Perses, il s'engagea présomptueusement dans la guerre et l'effusion de sang contre jusqu'à ce que, à l'improviste, il 1 Chap 17 Elib Yis Chap 18 Eccles Cron, Fol 577, voir aussi les annotations du D.R. Amon sur Jean 9 1-3, nous ne nous occupons d'aucune notion de ce genre, mais en tant que peuple, nous en sommes entièrement dégagés. Nous estimons qu'il n'est ni nécessaire à la foi, ni sûr à recevoir ou à défendre, comme étant soit tenu par ces païens égyptiens ou ces juifs susdits, ni comme il est insinué dans un récent pamphlet de 200 requêtes, concernant la doctrine de la révolution des âmes humaines, supposant 12 révolutions, ou 12 intervalles de vie distincts pour chaque homme, comme étant 12 naissances différentes dans le monde, chacun devant vivre ou accomplir l'espace de 1000 ans sur la terre. D'opinion d'une telle révolution ne paraissent pas être un point de controverse présent dans le livre susdit, ni en Pennsylvanie, ni maintenu comme une ouverture, révélation divine ou article nécessaire de foi, mais plutôt éludé pour ne pas devenir une controverse publique. Toutefois, puisqu'il apparaît qu'il y a quelques fondements de suspicion en la matière, et qu'il semble qu'elle soit implicitement favorisée par certains, c'est pourquoi, afin que nous en tant que peuple ne soyons pas suspectés à ce sujet, nous déclarons saints. Et nous nous soucions d'autant moins des requêtes et de la doctrine susdite, que nous ne trouvons aucune personne connue, ou personne d'autorité crédible, qui s'aventure à affirmer cette opinion, soit comme divinement révélée ou ouverte, soit comme nécessaire à croire ou à recevoir comme article de foi, ou qui entreprennent démontrer combien de fois ou d'intervalles de vie ils ont eux-mêmes vécu sur la terre, et quelles transactions ou passages remarquables, ou quelles choses bonnes ou mauvaises, ils l'ont fait ou traversé dans ces supposés intervalles de vie passés. Conclusion. Pour conclure, comme nous sommes persuadés que le manque de marche dans la vraie lumière et le manque de charité chrétienne est la grande cause des divisions dans les sociétés chrétiennes professant de toutes sortes, et de cette divergence parmi quelques personnes en Amérique, professant la même lumière et la même vérité que nous, nous avons honte et nous sommes surpris du langage amé et des conséquences et traitements sévères dans certains livres imprimés d'un parti et de l'exposition des faiblesses et des expressions injustifiables de certains de l'autre. Et nous prions Dieu de réprimander et d'arrêter cet esprit troublant d'inimitié et de division, où qu'il soit, car il cause grand trouble et grand désordre dans la création, et là où il entre, dans l'Église ou dans l'État. Toutefois, son œuvre mauvaise n'est point nouvelle. C'était le même esprit qui infestait et troublait les églises chrétiennes primitives, causant des divisions et des offenses contraires à l'évangile de paix d'abord reçu, et par lequel se formèrent des partis et des schismes. Et l'un disait « Je suis de Paul » à un autre, « d'Apollo » à un autre, « de Céphas ». Cette charnalité, l'apôtre l'a reprit, sachant et attestant que le Christ, que tous professaient, n'est pas divisé. Et si la tendresse et la charité chrétienne pouvaient influencer tous les partis, nous ne voyons aucune cause réelle pour que ces quelques personnes susdites se divisent ou se séparent extérieurement, surtout au sujet de la doctrine, puisqu'elles professent toute une lumière, un esprit, un Dieu et un Seigneur Jésus-Christ, et la foi en lui, et qu'elles croient sincèrement aux Saintes Écritures. Et même la personne qui accuse l'autre par écrit, professe reconnaître le corps du peuple appelé Quakers, et semble approuver nos anciens amis fidèles et généralement approuvés, écrivains ou éditeurs de nos doctrines et principes, et des prédicateurs parmi nous généralement reconnus et approuvés par nous, comme des hommes de jugement sain et de compréhension, et comme reconnaissant les articles fondamentaux de la foi chrétienne et protestante. Jusque-là, la personne accusatrice dans son Seruopil, page 6. De même, cette même personne a encore signifié ouvertement à l'autre assemblée d'amis, que lui et ses amis avaient unité avec la plupart là quant à l'essentiel, ainsi qu'avec tous les amis fidèles partout, à l'exception seulement de quelques-uns dans leur assemblée qui étaient peu sûrs, etc. Reason and Cause, page 26. Et donc, si la plupart des deux côtés ont unité quant à l'essentiel, nous pouvons charitablement supposer qu'ils ne diffèrent pas sur l'essentiel ou la substance de la foi ou de la doctrine chrétienne ci-dessus citée, et sincèrement reconnue et confessée par nous. Si elle est considérée avec tendresse et dûme par les deux côtés, comme des hommes cherchant paix, amour et concorde. C'est pourquoi la divergence a été gérée très indiscrètement, aggravée et exposée jusqu'à la séparation, l'impression et l'opprobre, puisqu'elle ne portait pas sur l'essentiel. Nous désapprouvons entièrement de tels déchirements et tiraillements, de telles démarches de division et d'aggravation, et de tels traitements amés, et n'avons aucune unité avec cela. Mais désirons que le Seigneur, dans sa miséricorde, répare les brèches et guérisse les rechutes parmi eux et parmi tous qui sont tenus pour des professions et sociétés chrétiennes, et incline tous à l'essentiel, à la vraie lumière, à la substance et à la vie du christianisme, à l'amour véritable, à une charité fervente, à la tendresse de cœur et au pardon les uns envers. Un post-scriptum, relatif à la doctrine de la résurrection et du jugement éternel à la dernière trompette de Dieu, et à la voix de l'archange, les morts ressusciteront incorruptibles, les morts en Christ ressusciteront premièrement un corps, 15:52, 1 Pétrus 4:16, comparé avec Matthieu 24:31. Beaucoup sont souvent alarmés ici dans leur conscience par la parole et la voix de Dieu, eux qui se bouchent les oreilles et méprisent ces avertissements. Mais la grande et dernière alarme de la dernière trompette, ils ne pourront ni s'en boucher les oreilles ni y échapper. Elle s'emparera inévitablement d'eux et les réveillera définitivement pour le jugement. Ceux qui ne veulent pas être alarmés dans leur conscience jusqu'à la repentance, ni hors de leurs péchés ici, doivent certainement être alarmés pour le jugement dans l'au-delà. Quiconque maintenant ferme volontairement les yeux et condamne ou fuit la lumière de Christ ou son apparition au-dedans sera finalement contraint de voir et ne pourra ni fuir ni se cacher de sa glorieuse et redoutable apparition venant du ciel avec ses puissants anges, comme l'éclair et dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance sur tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pétrus 4:16, Matthieu 24:27, Luc 21:27, Daniel 10:6, Job 37. Et quoique beaucoup aujourd'hui éludant et rejettent les convictions intérieures et le jugement de la lumière, et fermant les registres ou les livres dans leur propre conscience, ils seront tous finalement ouverts, et chacun jugé sur les choses qui y sont consignées selon ses œuvres. Apoc 20:11-15. Signé au nom de notre profession chrétienne et du peuple susdit, George Whitehead, Charles Marshall, Ambrose Rigg, John Boaté, William Fallowfield, John Vaughton, James Park, William Bingley. Une lettre d'encouragement aux Quakers survivants de la grande peste de Londres qui tua 100 000 personnes. Cette lettre apparaît aussi dans son journal, la seconde épître, imprimée en l'an 1665, après que l'ardeur de la contagion fut passée, était intitulée « Une épître pour le reste des amis et les élus de Dieu », qu'il a préservée pour porter leur témoignage dans et autour de la ville de Londres. À qui ce témoignage du cher amour et du tendre soin qui s'écoule, et c'est envers vous et tous les cœurs tendres qui sont concernés par de semblables souffrances, tentations et épreuves. De leur ami fidèle et serviteur dans le Seigneur, George Whitehead. Mes très chers amis, frères et compagnons de souffrance, parmi lesquels mon âme a peiné et a souffert pour l'amour des affligés, dont les fardeaux et les épreuves sont encore avec moi en esprit, ainsi que l'amour, la tendresse, le soin et la liberté d'esprit qui ont paru parmi vous envers les affligés et les innocents souffrants, qui ont été menés et chassés comme des brebis à l'abattoir, pour le témoignage de Jésus et pour une bonne conscience. Chers cœurs, je recèle envers vous tous, dans l'esprit et l'unité du véritable amour dans les élus de Dieu, en laquelle vie et domination sont ressentis par tous ceux qui attendent patiemment le Seigneur, dans une véritable soumission à sa puissance et à son conseil éternel, et dans les exercices, épreuves et difficultés dont cette semence juste est assaillie, afin qu'étant pleinement éprouvés, vous puissiez sortir comme de l'or parfaitement affiné, et que les justes au travers de toutes ces choses puissent poursuivre leur chemin, et que les innocents aient les cœurs. Il contemple, ressent et porte les souffrances de son peuple, dans sa longanimité et sa patience, où les esprits de ses élus sont exercés, et par lesquels ils vaincront, et seront plus que vainqueurs, là où ni calamité, ni détresse, ni la vie ni la mort ne pourront jamais les séparer de cet amour, de cette vertu, de cette vie et de cette gloire, révélée dans les fidèles en Christ. Mes chers cœurs, la gloire et le poids du juste témoignage de Dieu, de vie et de salut, étant dans sa lumière véritablement et manifestement révélée en vous et parmi vous, vous avez grande raison de priser à jamais son amour, de glorifier son nom, et de vous attacher étroitement à lui, quels que soient les périls, épreuves, oppositions, souffrances ou tentations que vous rencontriez. Soyez d'un esprit constant et d'une pensée droite, dans la vérité immuable, envers le Seigneur Dieu de vie, en qui réside votre préservation et votre sécurité, sachant qu'aucun poids d'affliction ou de souffrance ici-bas n'est comparable au poids de la vie et du salut éternel en Jésus-Christ, auquel vous êtes appelés, par la glorieuse manifestation de la puissance de Dieu et de l'évangile de paix et de salut. Car le vrai sens et la jouissance de ceci l'emportent assurément et de beaucoup sur toutes les souffrances et épreuves du temps présent. Qu'aucun de vous ne se décourage ni ne soit ébranlé dans son esprit par des choses de cette nature, à cause de l'avantage apparent ou de l'occasion que les esprits méchants, rebelles et envieux, ou ceux qui sont dans le préjugé, prennent contre nous, du fait de cette calamité commune et de la récente mortalité qui a frappé beaucoup de justes comme d'injustes quant à l'homme extérieur, dans la ville de Londres. Car le témoignage et la gloire de Dieu brillent, et brilleront et perceront toutes ces nuées d'affliction, de souffrance et de reproches, dont l'habitation des justes a été et est environnée. La fidélité et la droiture de nombreux agneaux innocents du Christ, dans et autour de cette ville, ne doivent jamais être oubliées. Elles se sont si grandement manifestées et ont resplendi dans leur attachement à leur témoignage, et dans le maintien de la vérité avec tendresse de conscience et sincérité envers Dieu, lui qui nous appelait à nous rassembler dans sa crainte, et en son nom et en sa puissance éternelle, avec un véritable souci de sa gloire et de sa juste cause, qui est engagé dans l'obéissance de son peuple, tant en ce. Leur obéissance dans le culte spirituel, beaucoup ne l'ont ni renié ni décliné, ni sous les épreuves venues des hommes, ni sous celles qui venaient de Dieu, mais qu'ils aient été exposés à tomber entre les mains de Dieu ou des hommes, pour l'épreuve de leur foi, ils ne se sont pas éloignés de celui qui compose ses joyaux au travers d'épreuves et de tribulations. En tout cela, son soin paternel est ressenti, et sa tendre miséricorde et sa compassion sont vues envers les siens, comme envers sa descendance particulière, ses tendres enfants, ses fils et ses fidèles serviteurs, qu'il aime et qu'il châtie et éprouve donc, non dans la colère et la fureur, mais dans l'amour, le soin paternel et la pitié, de sorte que ceux dont les yeux sont ouverts dans la vraie lumière, et qui ont un esprit et une disposition juste, ont pleinement pesé l'état de la semence souffrante parmi nous, qui est dans la foi d'Abraham. Ceux qui ont ainsi pesé cet état de souffrance voient clairement que ni Satan ni ses instruments n'ont aucun avantage réel contre aucun de ceux qui restent de cette semence, au travers de ces épreuves ou souffrances, qu'elles viennent des mains de Dieu ou des hommes. Beaucoup ont gardé leur intégrité jusqu'au bout, et ont acquis leurs épreuves et afflictions dans le tendre amour de Dieu, et ont eu une telle unité avec cela qu'ils ont été bien loin de blasphémer ou de maudire Dieu, comme les méchants le font souvent et le feront, lorsque plaies, malheurs, tourments et douleurs s'emparent d'eux. Ni Satan ni ses instruments n'ont vu leur dessein mauvais accompli, comme le diable l'aurait voulu contre Job sous son affliction, lorsqu'il cherchait à lui faire maudire Dieu en face. La vérité de notre Dieu et l'innocence de son peuple, qui connaissent la rédemption de l'âme, qui est précieuse, subsisteront au-dessus des hommes et des démons, de sorte que, comme la vérité est au-dessus du diable lui-même qui a le pouvoir de la mort et des ténèbres, jusqu'à confondre et fermer la bouche de ceux qui sont animés par la puissance et l'esprit d'inimitié et de ténèbres, ils peuvent être convaincus, confondus, et laissés sans excuse devant le Seigneur notre Dieu, qui sera reconnu juste lorsqu'il jugera. Oui, béni à jamais soit le nom de notre Dieu, qui nous a donné la force et le courage de tenir ferme en un mauvais jour, au-dessus de l'enfer, de la mort et du diable, avec tous ses dards enflammés et ses assauts féroces contre les justes. Le Seigneur a épargné et épargnera un reste pour porter sa marque et son nom sur la terre, et pour présenter un témoignage vivant pour sa gloire et sa louange parmi les fils des hommes. Pour cela, beaucoup n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, mais ont offert leur vie, comme beaucoup le firent manifestement l'été dernier à Londres lors de la peste. Beaucoup ont offert leur vie et tout pour la vérité et pour leurs frères et sœurs affligés, pour l'amour desquels mon âme a été grandement courbée et affligée, et mes entrailles ont été émues pour eux, et j'étais si touchée de compassion et de brisement d'esprit, que ni la vie elle-même, ni aucun privilège extérieur, ne me paraissait si précieux que je ne les eusse abandonnés pour leur cause. Dans la ville et les prisons, certains persécuteurs de ce temps-là se montrèrent cruels et méchants envers les innocents, afin de les détruire dans des lieux de détention pestilentielle, où beaucoup moururent aussi à bord de navires, où tant étaient détenus pour le bannissement, beaucoup déposèrent leur vie pour le témoignage d'une bonne conscience. Bien que les méchants, pendant un temps, puissent s'élever dans leur méchanceté et nous insulter à cause de nos profondes épreuves et des nombreux décès de tant d'innocents, leur haine ainsi accrue et endurcie contre nous, nous qui sommes le peuple du Seigneur, ne fait qu'aggraver leur destruction et leur misère. Leur tourment, qui ne sommeille pas, est plus grand que celui de beaucoup qui sont morts de la peste, par laquelle beaucoup, bons et mauvais, ont été enlevés. Pour ceux qui restent en vie et demeurent dans leur péché, sans tenir compte de l'avertissement de la peste, elle se révélera être la plus grande peste et le plus grand jugement. Ce sont les moins réfléchis, insensibles à la main du Seigneur en cela, ou à leur état et condition. Quant à cette calamité ou maladie particulière, elle n'est pas en soi le pire des jugements que Dieu réserve à un peuple ou une nation pécheur, provocateurs et rebelles. Et le différend de Dieu n'est pas encore terminé avec cette nation, ni les coupes de son déplaisir n'ont été vidées sur les ennemis et les persécuteurs de sa semence. Quel jugement sûr et lourd, et quelle misère cela prédit à beaucoup dans ce pays, que tant de personnes innocentes et justes en soient ôtées, dont le monde n'était pas digne, mais elles sont ôtées du mal à venir et des calamités futures, établies en sûreté pour toujours, loin de ceux qui les ont méprisées et en ont fait leur proie durant leur vie. Et quant à ceux qui restent encore, qui craignent le Seigneur et s'attachent toujours étroitement à lui, le regardant et le plaçant devant nous dans le plus grand de nos périls et souffrances, nous savons que sa bonté demeure à jamais, quoique les puissants et les élevés de la terre se vantent et nous insultent pour un temps. Mais plus il y a de souffrances, plus grande sera la consolation et la gloire de ceux qui demeurent fidèles jusqu'à la fin. Et quelles que soient les conclusions portées contre nous, soit par des hommes méchants, soit par ceux qui, dans le préjugé, se tournent contre nous et prennent occasion de la mortalité qui est venue sur tant d'amis au temps de cette grande calamité, comme si c'était dans la colère, l'indignation ou la fureur de Dieu contre le corps des amis, ou contre l'un de nous qui sommes venus à la communion du corps de Christ dont nous sommes membres, ou si quelqu'un qui professe le nom du Seigneur est si obscurci, incliné et prévenu dans son esprit, qu'il conclut que ce. Ayez donc confiance dans le nom de notre Dieu, et dans cette foi vivante où résident notre unité et notre victoire. Notre vie innocente s'élève au-dessus de son vrai jugement, contre tout ce qui, parmi certains, s'est glissé à l'improviste pour créer division et inimitié contre les fidèles serviteurs ou le peuple de Dieu, là où cela est reçu en des esprits instables ou fragiles. Et c'est pourquoi mon âme dit, « Que le Seigneur te réprimande, Satan, toi qui envies l'héritage de Dieu. Pourquoi t'es-tu subtilement présenté parmi les fils de Dieu, pour troubler les innocents, t'efforçant, par tes dards enflammés et tes tentations de cette nature, de les tourner contre leur Créateur ? Pourquoi fais-tu subtilement usage d'instruments dans cette œuvre mauvaise pour accomplir tes trahisons ? Le Seigneur te réprimandera par sa puissance, car nous sommes certains que là où le fidèle témoignage de Dieu dans la conscience est reconnu, ce qui devrait être la jauge en l'affaire, et doit trancher la controverse, il rend témoignage avec nous et pour nous, et pour la justification de tous les fidèles parmi nous qui sont réellement des nôtres, et appartiennent à la semence d'élection. Et ainsi ils ne sortiront pas du milieu de nous, nous qui demeurons dans la vérité de Dieu, qui ne change pas étant de la semence de Jacob, esprit éternel. Car en cela nous sommes héritiers de la promesse, et alors, qui condamnera ou prophétisera la colère, là où Dieu justifie, et attirera la condamnation sur lui-même, car l'amour de Dieu fut ressenti par beaucoup sous cette épreuve et visitation, dont ils moururent en ces jours-là, et beaucoup furent sensibles à l'amour et à la faveur de Dieu jusqu'au tout dernier. Et de la vie, de la paix, de la satisfaction et du réconfort que beaucoup d'amis innocents ont ressenti, et que certains ont exprimé et signifié sur leur lit de mort, j'en suis un témoin vivant pour eux. Ayant parfois, comme le Seigneur m'a attiré dans son amour, été présent auprès de beaucoup d'entre eux lorsqu'ils étaient très bas quant à l'homme extérieur, et auprès de beaucoup lorsqu'ils étaient sur leur lit de mort, dans cette prison destructrice de Newgate, et en quelques autres lieux. Oui, lorsque la tristesse et l'abattement se sont emparés de mon esprit, et que mon cœur et mon âme ont été transpercés et blessés en voyant les souffrances affligeantes de tant d'agneaux inoffensifs sur leur lit de maladie dans ces trous et prisons infectes. Néanmoins, au même moment, ayant un profond sentiment et une connaissance de l'amour et du soin du Seigneur pour eux dans cet état, et ressentant véritablement sa vie et sa puissance éveillée parmi eux, cela d'autre part a rafraîchi et ranimé mon esprit, sachant que Christ leur sait. Pour cela, vivre était Christ en cet état, et mourir était un gain, car c'est par la mort que le Seigneur avait établi la délivrance finale de beaucoup, hors des cruautés et de la verge de leurs oppresseurs, et hors des misères et des maux à venir. La fidélité, la droiture et l'innocence de beaucoup de ceux qui ont été enlevés, leur constance d'esprit envers le Seigneur et sa vérité vivante, leur amour sincère envers les frères, par lequel il était évident qu'il était passé de la mort à la vie, et le témoignage vivant et fidèle qu'ils ont porté pour le Seigneur durant leur vie, étant bien connu et manifeste parmi nous, leur mémoire nous est vraiment précieuse et ne doit jamais être oubliée. Et nous sommes convaincus qu'ils ont été jugés dignes pour le Seigneur, et que le monde n'est. Et outre cela, certains que Dieu a rétablis et relevés de nouveau, et qui demeurent encore vivants avec nous, ayant été sous la même épreuve et la même maladie, peuvent témoigner de la tendre amour de Dieu envers eux, Combien librement par la foi ils se sont abandonnés au Seigneur, sous cela dans son amour et sa faveur, qu'ils l'ont partagé soit pour mourir soit pour vivre, selon qu'il lui plairait de disposer d'eux, sachant que certains qui étaient très chers au Seigneur, même certains de ses joyaux choisis et de son trésor particulier. De sorte que je dois dire ce que j'ai vu et ressenti, quant à l'état des fidèles amis en ce cas certains par la foi selon la volonté de Dieu se sont abandonnés et désiraient plutôt mourir que vivre, et en cela ils ont librement embrassé l'affliction extérieure, qui n'était que pour un moment en comparaison, sachant que mourir serait pour eux un grand avantage et un gain, et qu'ainsi ils seraient délivrés de souffrances et de maux futurs, et que leurs esprits reposeraient dans une paix, une joie et un triomphe éternel. D'autres, par la foi, se sont simplement abandonnés à la volonté de Dieu pour mourir, s'il en disposait ainsi, n'attendant pas en eux-mêmes la vie ou le rétablissement. Et pourtant, en s'étant ainsi abandonnés, ils ont été rétablis pour porter leur témoignage parmi nous, ayant connu et ressenti qu'en patience, se résigner à la volonté de Dieu dans le renoncement à soi, l'abaissement et l'humilité dans leur affliction, était le plus conforme à leur paix. Et quelques autres d'entre nous, par la foi selon la volonté de Dieu, ont été gardés au-dessus de la maladie, et jusqu'à présent conservés en vie, non par quelque considération que nous puissions nous attribuer en la matière, ni pour quelque raison à ce que je sache, qu'on puisse montrer pour nous plutôt que pour certains innocents qui ont été enlevés, mais parce que le Seigneur a eu égard à sa propre gloire et à un service ultérieur pour lui-même, qu'il avait pour nous accomplir et où il voulait nous employer, et qu'il préservera un reste. La gloire et la louange, nous les rendons au Seigneur, désirant que nous tous le servions fidèlement dans la crainte de Dieu et une vraie humilité, les jours que nous avons à séjourner ici-bas, afin que nous soyons tous à sa louange, dans la main duquel nous sommes, que nous vivions ou que nous mourions. Car il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, qui ne se scandalisent pas de lui dans aucune de leurs tribulations ou tentations, lorsque l'heure de la tentation vient sur toute chair, pour éprouver ceux qui habitent sur la face de la terre. Il nous a confié la parole de sa patience, lui qui est le gardien d'Israël et notre conservateur, notre soutien et notre refuge au travers de toutes ces choses. Il a fait de nous des coopérateurs ensemble dans un seul et même esprit de foi et de vie, dans lequel il est obéi, et auquel se soumettent ses fidèles peuples et serviteurs dans leurs divers états, épreuves et exercices, et parmi lesquels les divers effets et fruits de cette même foi se voient et sont produits, selon sa volonté, lui qui donne la vie et la préservation. Et maintenant, si ceux qui tirent avantage contre nous, qu'ils soient des frappeurs ou des ennemis ouverts ou secrets, pesaient justement ou sérieusement leurs conditions, et laissaient le témoin de Dieu juger l'affaire, ils n'auraient aucune raison de se vanter ou de nous insulter, car ils ne sont pas leurs propres gardiens, et leur vie ne se prolonge pas par leur propre pouvoir. Et combientôt leur temps peut expirer et leur jugement les atteindre, ils ne le savent pas, ni combientôt leurs jours peuvent être retranchés. La nation ne sommeille pas, à ceux qui, dans l'orgueil de leur cœur et la présomption de leur esprit, se tournent contre la semence souffrante de Dieu, sous quelque profession et prétexte que ce soit, quand bien même sous prétexte du nom du Seigneur, ou de la profession de la vérité elle-même. Et sachant aussi que beaucoup qui étaient de leur propre esprit et principe ont également été enlevés sous la même calamité, car elle s'est étendue à tous, saints et profanes, ils ont sujet de trembler et de craindre devant le Seigneur, et ne devraient pas. Car la bouche du vantard et de l'exalté doit être fermée, et toute chair et toute raison charnelle doivent se taire en cette matière, car la puissance de Dieu est au-dessus de tout, et au-dessus de ce qui a menacé ou apporté de mauvaises nouvelles contre son Israël. Nous connaissons ce même esprit qui se tourne contre nous, guette des occasions et prophétise notre destruction, il voudrait la voir s'accomplir afin d'être reconnu comme un vrai prophète, et ce meurtrier qui tue le pauvre, c'est le même qui est dans nos ennemis déclarés, et le même qui fut en Caïn contre son frère. Et celui qui est dans cet esprit, ou dans ce principe d'inimitié ou de préjugé, n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Ou que cela soit publié aux oreilles du peuple de Dieu, et que les amis sentent mon intention et mon but innocent, ayant écrit davantage de cette nature pour prévenir la subtilité de l'ennemi et les tentations de ce genre, afin que les tendres et les faibles ne soient pas pris au piège, et ayant vu comment Satan assaille cela par des tentations dans ses profondes épreuves pour miner leur espérance, et créer l'incrédulité et le désespoir dans l'esprit, afin de les détourner de la vérité, et comment il se sert de ses instruments de la même. Un fléau ou une maladie commune, comme celle-ci, qui a causé une si grande mortalité, comme il a été ordonné et permis par le Seigneur, s'est étendu et a agi, selon sa nature et sa propriété de propagation et de contagion, sur les corps des vieux et des jeunes, des bons et des mauvais, des innocents et des coupables, oui, sur beaucoup qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Mais les iniquités et les abominations des méchants furent la cause de la colère et du déplaisir de Dieu en cela, et la cause originelle de ce fléau, la création étant opprimée sous leur méchanceté, et la terre souillée sous ses habitants, ce qui fait froncer le ciel sur le monde, et fait partir la malédiction, et retient la bénédiction à leur égard. L'enlèvement d'hommes bons et miséricordieux, et de nombreuses personnes innocentes, quoi qu'ils soient pour eux-mêmes un acte d'amour, n'en est pas moins un jugement contre les autres, qui ont attiré sur leur propre tête le sang innocent par leur cruauté et leur persécution, et dont les cœurs s'endurcissent et deviennent implacables contre la vérité et la justice, et contre tous ceux qui y marchent, dont les âmes ont été chaque jour tourmentées et opprimées par la conduite impie et non chrétienne des méchants. Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils Jésus-Christ, mais l'a livré à la souffrance et l'a fait compter parmi les transgresseurs, tant dans la vie que dans la mort, et a fait de son âme une offrande pour les offenses de plusieurs, a aussi donné beaucoup de ses chers enfants, non seulement à croire en, mais aussi à souffrir avec son propre Fils. Il a porté nos peines et nos douleurs, et avec lui il leur a permis d'être comptés et rangés parmi les transgresseurs, tant dans leur vie que dans leur mort, afin que ses disciples portent les opprobres et participent à ses souffrances, lui qui a mis son tombeau parmi les méchants, et avec le riche dans sa mort. Et ils furent estimés comme frappés ou affligés par Dieu, quoique quant à leur propre condition, tout était sera pour toujours avec les justes en ayant obtenu le témoignage de cela, et leur justification de la part du Seigneur Dieu, par le témoignage juste duquel cela est connu et manifesté en secret dans les consciences des hommes, là où il visite en la colère et distribue des douleurs dans son indignation, et là où il visite et prouve ou châtie dans l'amour, la faveur et la tendre miséricorde. Ce témoignage découvre où se trouve la culpabilité du péché et de la désobéissance, où se trouve la tromperie, la trahison et l'apostasie de la foi, qui occasionne des terreurs et la crainte de la colère, et qui attire la colère et l'indignation de Dieu sur ceux qui s'en rendent coupables, et qui font aussi souffrir les doux et les innocents. Ceux-ci, sachant la culpabilité ôtée, toute affliction et toute épreuve qu'ils rencontrent leur est sanctifiée, par la tendre amour et la faveur de Dieu, dans lesquelles leur coupe est mêlée, les lits de celles-ci, leurs ennemis implacables et leurs persécuteurs les boiront sans mélange. Or la différence entre les deux états se ressent et se discerne dans l'esprit invisible, par ceux qui ne jugent pas selon la vue des yeux ou l'ouïe de l'oreille, ni seulement d'après l'apparence extérieure des afflictions communes, et qui parfois surviennent pareillement sur tous, mais par la justice et la vérité qui jugent. Comme il a été dit autrefois des justes, dont les âmes sont dans la main de Dieu, qu'aux yeux des insensés leur départ est tenu pour misère, et leur éloignement d'avec nous pour une ruine totale, mais ils sont dans la paix, car bien qu'ils soient châtiés aux yeux des hommes, leur espérance est pleine d'immortalité, et après avoir été un peu châtiés, ils seront grandement récompensés, car Dieu les a éprouvés et les a trouvés dignes de lui, comme l'or dans le creuset il les a essayés, et il les a reçus comme une offrande consumée. Oui, tels sont ceux qui jugeront les nations et auront domination sur les peuples, dont le Seigneur, qui prend soin de ses élus, régnera pour toujours. Maintenant, mes chers amis et cœurs tendres, remettez votre voix au Seigneur, et jetez sur lui votre fardeau, et il vous soutiendra et vous maintiendra par sa propre droite de puissance. Vivez dans la semence immortelle et la communion spirituelle, où la vie et la paix sont reçues chaque jour, et où subsiste votre rafraîchissement mutuel et votre consolation, et où les esprits des justes sont vus et sentis, et où l'on goûte la vie des fidèles serviteurs et martyrs de Dieu, et de ceux qui ont achevé leur témoignage avec joie et paix, même dans cette communion spirituelle, qui s'étend au-delà de toute chose visible, et est au-dessus de tous les objets ou choses mortelles et périssables. Ainsi, dans l'amour cher et tendre de Dieu, qui demeure et vit dans mon cœur envers vous et tous les fidèles partout, je vous remets à celui en qui sont notre secours et notre délivrance, et dans le royaume de la patience de Christ, je suis votre cher et fidèle ami et frère George Whitehead, que ceci soit lu distinctement, dans la vie et l'autorité de Dieu d'où cela est venu, parmi les amis dans et autour de la cité de Londres et ailleurs, selon que des amis y seront mus dans la vie. Un sermon et une prière de George Whitehead, 1693. Le sermon, note, les sermons n'étaient jamais rédigés à l'avance ni même esquissés par un vrai ministre du Christ, qui parlait entièrement sous l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit. Les sermons Quake étaient rarement consignés et conservés pour une lecture ultérieure, comme celui-ci l'a été. Je n'ai connaissance que de 4 ou 5 autres sermons consignés par des Quakers, et ceux-là l'ont été lors des réunions annuelles où des milliers assistaient. Un non-Quake a consigné 32 sermons remarquables de Stephen Crisp. Grand Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu de notre salut, a préparé pour lui-même un sacrifice dans les cœurs d'un reste, qu'il a rassemblé par le bras de sa grande puissance, et il a allumé ce sacrifice qu'il a lui-même préparé, et ceci pour un reste, est un signe manifeste de l'amour de Dieu et de sa providence divine et particulière pour leur sûreté et leur préservation, eux qui se confient en lui, qui sont sincèrement dévoués à son service et à sa crainte, et qui marchent dans l'humilité devant lui, et ceci mes amis. Comme il fut dit autrefois, lorsque Manu prit un chevreau avec une offrande, il offrit sur un rocher au Seigneur, et que l'ange fit des choses merveilleuses, tandis que Manu et sa femme regardaient, car il arriva lorsque la flamme monta vers le ciel depuis l'autel, que l'ange du Seigneur s'éleva dans la flamme de l'autel, et Manu et sa femme regardèrent et tombèrent face contre terre, et Manu dit à sa femme, « Nous mourrons sûrement parce que nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui dit, « Si le Seigneur avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas reçu de nos mains une offrande consumée et une offrande, et il ne nous aurait pas montré toutes ces choses. Il ne nous aurait pas manifesté un si grand amour. » Assurément un reste peut dire aujourd'hui, par le sentiment des grandes choses que le Seigneur nous a montrées, et de sa puissance bénie opérant dans leurs cœurs et leurs entrailles, une tendresse et une soumission à lui, que nous devons obéissance au Seigneur, et nous croyons que le Seigneur veut du bien à son peuple, en ce qu'il exaltera son nom en nous, et fera prospérer sa propre œuvre de justice, afin que la justice soit exaltée, et que beaucoup viennent contempler les grandes choses et les choses. Ces choses ont été annoncées d'avance pour l'encouragement et pour affermir la foi de ceux dont les visages sont tournés vers Sion, dont les yeux sont tournés vers le Seigneur leur Créateur, qui ont goûté en quelque mesure la puissance et la bonté du Seigneur notre Dieu, afin qu'ils demeurent dans la foi, par laquelle leurs cœurs peuvent être attirés après le Seigneur. Afin que ceux qui ont été rendus participants de la foi vraie et vivante du Fils de Dieu, en son nom et en sa puissance, gardent la foi et ne lâchent pas la foi, afin qu'ils retiennent fermement la confession de leur foi sans vaciller. Afin que l'ennemi ne soit autorisé sous aucun prétexte, ni à affaiblir ni à détruire la foi de quiconque, qui a connu quelque degré de foi dans l'œuvre de Dieu, et concernant sa bonté, et son soin particulier et sa providence pour la sûreté et la préservation de ceux qui le craignent, eux qui sont les appelés du Seigneur, choisis hors du monde et hors de ses corruptions, afin qu'ils soient un peuple vivant et particulier, une génération choisie, pour publier les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il nous a appelés et nous a choisis à cette fin même, afin que dans notre vie et notre conduite nous répondions à son appel de grâce, et à la vérité dont nous sommes rendus participants, et que nous publions ainsi sa louange, et cela en maintenant sujet de bénir le Seigneur et de louer son saint nom, pour toutes ses miséricordes dans le fait de les avoir préservés et aidés dans leur voie, dans le voyage spirituel et le progrès où ils ont été conduits. C'est pourquoi, chers amis, soyez attentifs et intériorisés avec le Seigneur, et attachez-vous à lui sans distraction, afin que rien ne précipite, ne trouble ni ne détourne vos esprits, ni ne les détourne de la foi, de la vérité et de la confiance que vous avez dans le Seigneur. C'est en celle-ci qu'il a rassemblé son peuple, afin que chacun soit exercé dans un état de vigilance, et dans l'abaissement et l'humilité, et qu'il regarde au Seigneur et dépende de lui pour la force, l'aide et la puissance qui nous permettent de tenir contre toutes les ruses de Satan. Afin que nul ne soit entraîné vers quelque extrême, en s'écartant du sens de la vérité et du ressenti de cette puissance qui prépare le cœur pour Dieu et le fixe sur lui. Afin que nul ne soit tiré hors de là, soit vers l'insouciance, la négligence, la paresse ou la présomption d'un côté, soit vers la défiance, la méfiance ou le désespoir de l'autre. Mais que tous regardent à Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de leur foi, afin qu'ils soient sensibles aux bienfaits de sa mort sur la terre, et de son intercession au ciel, de l'effet et du bénéfice de sa prière au Père. Ainsi, lorsqu'ils seront éprouvés et tentés, leur foi ne faillira pas. Afin que tous rendent témoignage et participent à ce qu'il dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, Satan a désiré te cribler, te secouer et te souffler de côté et d'autre, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Ainsi, mes amis et peuple ami, que votre foi demeure dans cette puissance qui vous a rassemblé, dans ce bras du Seigneur qui l'a mis à nu et étendu pour amener un peuple à lui-même, afin que chacun vive par la foi, et dépende du Seigneur pour la force et le secours, afin qu'il participe à l'influence immédiate de son esprit, qu'il est prêt à dispenser à communiquer à ceux qui se sont entièrement donnés au service du Seigneur, afin que vos prières et vos supplications soient dans l'esprit, adressées à ce Dieu qui répand un esprit de grâce. C'est le désir des cœurs et des âmes d'un reste, en faveur de beaucoup que le Seigneur visitera encore, atteindra et appellera hors des voies sombres, et des sentiers détournés du péché et de la corruption, afin qu'ils soient amenés à être en état de connaître la voie de la vérité, de la justice et de la paix. Et, mes amis, lorsque les gens sont sensibles au fait qu'il y a de vrais soupirs et désirs après Dieu, et qu'il y a un travail particulier de l'âme pour le bien d'une nation, et pour la conversion des pécheurs qui se détournent du mal de leur voie, c'est un signe que Dieu attend pour faire grâce. Il peut visiter un peuple et une nation par des châtiments et des jugements, toutefois je sens que c'est pour l'amour de son peuple, même d'un reste qu'il a rassemblé hors des professions vaines et des formes qui sont dans le monde, que le Seigneur attend encore pour faire grâce, étendant sa patience et sa longanimité afin de les convaincre, de les humilier et de les vaincre par son amour. Et lorsqu'il corrige et punit, il a pourtant en réserve des miséricordes pour eux, s'ils se repentent et se détournent du péché et s'humilient sous la main puissante de Dieu. Tel est le soupir et le travail des âmes d'un reste, et nous pouvons dire en vérité, le Seigneur a laissé une semence, un petit reste qui regarde à lui et se confie en lui. Quand bien même un peuple et une nation ont péché contre le Seigneur, ils auraient autrement été comme Sodome et Gomorre, si Dieu ne nous avait laissé une semence, pourtant à cause d'une petite semence, oui à cause du ver Jacob qui a lutté avec lui par la prière et la supplication, le Seigneur en a épargné beaucoup, et a attendu pour leur faire grâce. Ce sont véritablement un peuple de prière, qui a l'avantage sur tous les autres, toutefois je ne condamne pas toutes les formes de profession, il en est qui ont une sincérité secrète, une crainte de Dieu et un désir après le Seigneur, qui sont comme des brebis dispersées sur les montagnes stériles, que le Seigneur rassemblera encore. Il y en a qui ont un désir secret et une soif du Dieu vivant, qui désirent connaître les choses qui appartiennent à leur paix. Il y a d'autres brebis de Christ qui ne sont pas de cette bergerie, et celles-là aussi il les ramènera. Ce que le Seigneur a rassemblé et préservé, qu'il a gardé jusqu'à cet instant, et qu'il a aidé en pourvoyant à leurs besoins, et à qui il a continué sa miséricorde, devrait être reconnaissant et sensible à sa bonté vivante, lui qui par une puissance invisible leur a donné consolation et rafraîchissement tandis qu'ils l'attendaient, que leurs esprits et leurs cœurs demeurent fixés sur le Seigneur, appuyés sur lui, et il les préservera dans le calme et la paix. et ils sauront qu'il leur montrera sa providence, que leur pain sera. Le Seigneur, notre Dieu, a préparé un sacrifice, et il acceptera ce sacrifice qu'il a lui-même préparé, et cela, dis-je en reste, est un signe manifeste de son amour. Que Dieu Tout-Puissant vous préserve et bénisse les travaux de ses serviteurs parmi vous, qui travaillent dans la parole et la doctrine, et dans l'évangile de votre salut pendant qu'ils sont au milieu de vous, afin que vous connaissiez la bonté du Seigneur, qui attend pour faire grâce, et que vous ayez des expériences renouvelées de son amour, et observez pour votre encouragement le tendre soin qu'il lui plaît de manifester envers son héritage, en ce lieu et en d'autres. Nous avons grand sujet de remercier humblement Dieu pour les faveurs dont nous jouissons. La prière, note, les prières consignées sont encore plus rares que les sermons consignés, toute parole était prononcée par la puissance et sous la direction du Saint-Esprit, qu'une personne consigne les paroles est très rare. Dieu glorieux et béni, qui est le Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, et de tous nos secours et de toutes nos préservations, jusqu'à cet instant tu as été avec nous, jusqu'à ce jour nous avons eu ta présence bienveillante avec nous, même au temps du besoin, tu nous as rassemblés pour être un peuple particulier à toi. Ta présence est la vie même de nos réunions, et la beauté et la gloire de nos assemblées par lesquelles, de temps à autre, tu as secouru, soulagé et ranimé ton peuple dont les yeux se sont tournés vers toi, et dont l'attente a été en toi, afin d'être pourvu par ta main généreuse de ces provisions vivantes, divines et célestes par lesquelles tu as, de temps à autre, soulagé ton peuple, les pauvres et les nécessiteux, ceux dont les âmes sont courbées dans une profonde humilité devant toi et en ta présence, si bien que Père puissant de vie, nous. Nous avons sujet de te craindre, ô Seigneur, et de penser à ton nom. Nous désirons t'attendre, crier à toi, soupirer après toi et nous confier en toi. Nous te bénissons pour la continuité de ton amour et de ta bonté, pour tes bénédictions renouvelées et tes faveurs multipliées. Nous avons abondamment sujet de te bénir, de te louer et de t'honorer, ô Seigneur. De magnifier ton grand et excellent nom, pour ton amour et ta grande bonté, pour avoir mis à nu ton bras puissant et l'avoir étendu pour aider les sans-secours, pour soulager et soutenir les pauvres et les nécessiteux qui se confient en toi, dont tu as relevé la confiance par ta puissance, afin qu'ils se tiennent en ta présence. Ô Père de vie, juste et puissant, rassemble de plus en plus ton peuple en un sens intérieur, un ressenti et une expérience de ta puissance et de ta bonté, afin que leur cœur soit engagé envers toi, pour marcher devant toi dans une sainte crainte et révérence, et avec une telle sincérité, humilité, abaissement et tendresse de cœur, comme il convient à ceux qui jouissent de ta présence, et comme il convient à notre solennelle réunion et à notre comparution devant toi de temps à autre. Afin que tout ton peuple, appelé par ta grâce, convaincu et persuadé de ta vérité bénie, soit véritablement et réellement réveillé et stimulé au sentiment de ta puissance glorieuse. Afin qu'ils sachent ce que c'est que de comparaître devant toi, et comment ils doivent venir devant toi, Dieu très glorieux, très élevé et très saint, qui habite l'éternité et demeure dans les cieux les plus élevés, et pourtant a une place dans les cœurs les plus bas, dans les cœurs de ceux qui, avec une vraie révérence et une sainte crainte, désire t'adorer avec la disposition d'esprit et le tempérament de pensée et de cœur que tu requiers de tous ceux qui s'approchent de ta présence. Nous implorons l'influence de ta grâce et de ton esprit divin, afin que par elle nous soyons consolés et rafraîchis. Et accorde-nous par grâce au Seigneur de si doux apports de ton amour et de tels renouvellements de ta bénédiction qu'ils affermissent et établissent nos esprits et nos cœurs dans le sentiment de ta bonté et de ta puissance et de ta présence. Afin que nous ne soyons pas ébranlés dans nos esprits, ni affaibli dans la foi et la confiance en toi par quelque tentation que ce soit. Afin que, Seigneur Dieu éternel, les cœurs de ton peuple soient fixés, se confiant en toi, et en ton nom et en ta puissance bénie, et trouvent sûreté et préservation. Afin que tout ton peuple, partout, soit sensible que tu es sa demeure, comme tu l'as été dans toutes les générations. Et ainsi, Seigneur Dieu éternel, qu'ils demeurent en toi, et que tu demeures en eux, et qu'ils disent « Ceci est mon habitation, car je l'ai désiré ». Afin que, Père béni de vie, il soit sensible à ton amour en cela, qu'aucun fléau, ni détresse, ni épée, ni famine, ni nécessité, ni affliction, ni ange, ni principauté, ni puissance, ni chose présente, ni chose à venir, ne puisse les séparer de ton amour en Jésus-Christ, ô Seigneur. Ainsi ton peuple pourra te dire, comme Israël disait autrefois, « Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, quand des hommes se sont levés contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vifs, lorsque leur colère s'est enflammée contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, et le torrent aurait passé sur nos âmes. Notre secours est en toi, ô Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Ton nom, ta puissance et ta puissance redoutable ont paru pour nous et nous ont environnés. Tu as entouré ton peuple de ta faveur comme d'un bouclier, et tu l'as préservé pour la louange et l'honneur de ton nom, et tu l'as préservé pour la louange et l'honneur de ton nom, et pour l'exaltation de ta sainte vérité. Et la confiance et l'espérance d'un petit reste est que tu seras encore avec eux, car leur confiance est en ton nom, qui est une tour forte, et leur dépendance est sur toi. Tu ne retrancheras pas un peuple que tu as destiné à ta louange, tu ne le détruiras pas, mais tu l'entoureras de ta miséricorde et de ton salut comme de murs et de remparts tout autour, telle est la croyance et la confiance que tu as éveillée dans les cœurs d'un reste. C'est pourquoi, ô Seigneur, nous avons sujet de t'attendre et de nous confier continuellement en toi et de soupirer et crier à toi pour tout ton héritage. De crier pour tous ceux que tu as rassemblés par le bras de ta puissance, afin qu'ils soient préservés fidèles jusqu'au terme de leur jour, afin qu'ils soient sauvés des maux, des souillures et des corruptions du monde, afin qu'ils obéissent à ton appel et à ton conseil céleste, afin qu'ils viennent t'attendre et écouter ta voix, comme ceux qui sont prêts à obéir, et à ne toucher aucune chose impure, mais étant sensibles à ta bonté, tu détourneras ta colère de ceux qui s'éloignent de leur provocation. C'est à cette fin que tu as suscité des désirs et des soupirs, et engendré un travail dans les âmes d'un reste des fils et des filles des hommes, particulièrement pour la terre de notre naissance. Nous prions pour les grands et les petits, les riches et les pauvres, les gouvernants et le peuple, afin que, par ta puissante visitation, ils soient excités à chercher le Seigneur, à t'attendre et à marcher dans l'humilité devant toi et en ta présence, afin qu'ils ne désirent personne dans le ciel que toi, et personne sur la terre en comparaison de toi. Ô Père, pour nous une délivrance et un salut effectif, tant intérieur qu'extérieur, afin que notre confiance ne soit en rien au-dessous de toi. Donne à chacun de nous l'intelligence et l'œil ouvert à la lumière de la vérité, afin que nous regardions à toi et attendions le salut de toi, par Jésus-Christ notre Médiateur et Rédempteur. Souviens-toi de tout ton peuple ici et ailleurs qui t'est agréable. Garde-le dans le sentiment de ta puissance et dans l'humilité devant toi, afin qu'il reçoive de toi consolation, sagesse et instruction, et établis gracieusement ses pas, et garde-le dans la voie où il doit marcher, la voie de la vérité et de la justice, de la vie et de la paix. Fais-toi connaître dans les assemblées de tout ton peuple, ranime-le et fortifie-le, et sois avec tout ton peuple en ses familles respectives, afin qu'il soit engagé à te servir et à te craindre avec sincérité et humilité, et à invoquer ton nom, afin que toi, Seigneur Dieu éternel, tu prennes soin de lui, et que ta providence particulière veille sur lui, et que les anges de ta présence dressent leur temps autour de tous ceux qui craignent ton nom. Père des miséricordes, béni et éternel, demeure parmi nous, cache-nous et mets-nous en sûreté sous l'ombre de tes ailes, afin que nous jouissions de la communion avec toi par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé et notre seul Sauveur, et que nous t'offrions des sacrifices vivants de louange et d'action de grâce à toi, le Dieu de toutes nos miséricordes, bénédictions et délivrances, car toi seul en es digne, toi qui es Dieu sur toutes choses, béni au siècle des siècles. Amen. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.